Ok, putain, je suis en dernier, en plus, je peux pas trop picoler, c'est nul.
Ah, si, si.
Moi aussi,
si.
C'est oh, pas incompatible. Hein.
Je boive de l'eau.
Ça ne change rien.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Donc je lui dise d'aller se faire enculer.
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe avec le retour de Juan.
Oui. Bonjour.
Ah. Retour de Franche-Comté, ça s'est bien passé?
J'étais pas en Franche-Comté. Du coup, ça s'est très bien passé.
Non, mais on leur a parlé de notre projet secret, tu peux leur dire maintenant.
Non, j'étais pas en Franche-Comté.
Oh, le mec, il est dans le déni.
Bah, tu sais, vacances et Franche-Comté, ça sonne pas tout à fait.
Oui, parce que tu voulais des vacances avec l'eau courante et l'électricité.
Ouais, voilà.
Tu disais pas ça en nous montrant tes photos à Montbéliard tout à l'heure.
Belle bon.
Tes selfies à Montbéliard.
Tu n'as aucune preuve.
Nous avons aussi Hicham.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Bah, très bien. Camille.
Hello.
Ça va?
Bah écoute, oui, à part que la Franche-Comté prend cher comme d'habitude, mais sinon ça va.
Mais on travaille sur des partenariats à long terme avec l'Office du Tourisme, ça vient.
Oui. Juste pour dire, sur la planche, là, sur la table, on avait trois fromages différents, dont du Morbier. Personne n'a goûté.
Sauf qu'il y avait du Comté, on l'a éclaté, donc ton argument est invalide.
Ah, c'était du Comté.
Bon. Tu as Comté, Franche-Comté.
On coupera au montage, merci.
Il y a un truc dessus. Et aujourd'hui, nous avons un invité que vous connaissez certainement, qui n'est autre que le Captain Web.
Merci.
Bravo.
Yeah.
Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Comment
merci,
ça va?
Merci pour l'invitation. Ça va, ça va. Il y a de la bière, il y a du fromage. Enfin bon, il reste du Morbier. Quoi.
Mais écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir.
Mais ça me fait très plaisir d'être ici.
Et puis, écoute, on a connu ton podcast depuis des années. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Captain Web, les quelques-uns et quelques-unes, un énorme pionnier du podcast français, parce que ça fait ce que tu dis, on raconte un peu ce que tu fais.
Ouais, ça va faire quoi? Ouais, ça fait 9 ans effectivement, on va entamer la 10e saison. On fait du podcast. À l'origine, c'est un podcast technologique. C'était
numéro
comme ça.
Numéro 1.
Voilà, le premier épisode, c'était, on parlait de ça. Après, c'est un peu divagué, on parle un peu de tout et de n'importe quoi aujourd'hui. Donc, c'est très variable. Le dernier épisode qu'on a enregistré, c'est un épisode musical, comme on a l'habitude de faire par saison.
J'ai vu ça passer.
Voilà. C'était vilain.
Enfin, j'ai vu passer ça. écoute, j'ai hâte de l'écouter. J'ai vu passer en live. Bah, voilà. Pour ceux qui connaissent pas l'apéro du Captain, un podcast tech, mais pas que. Plutôt pas que. Mais, surtout.
Ça dépend des numéros. Le dernier numéro était pas très tech, il faut bien l'avouer.
Très, très chouette. Avec, mine de rien, beaucoup de taf, même si vous vous en cachez, mais, beaucoup de choses au prévu.
Ça dépend des épisodes.
Ouais, aussi. Et puis, ça fait 9 ans que ça existe. Vous publiez en live. Avant de publier l'épisode. Enfin,
alors, on fait, un enregistrement live, ce qui nous permet de nous mettre dans l'ambiance et d'assurer qu'on va pas faire de montage après. Mmh. Ça marche pas toujours. Et après, effectivement, on le publie normalement 2 jours après, plus souvent 3-4 mois après, parce qu'on est très très en retard sur les montages.
Bah, les habitués ont pris le rythme.
Oui, voilà, ouais, ils sont habitués.
On regarde même plus les dates. Je sais quand j'entends une news, c'est qu'elle a 3-4 mois.
C'est ça. C'est à peu près
et
ça.
Et du coup, quand on a signé le contrat, ça va.
Bah, j'ai un souvenir ému d'il y a 8 ans, justement, où c'était toutes les semaines religieusement, et c'était assez fou.
Ouais, alors on enregistrait toutes les semaines religieusement. Je pense qu'on avait déjà du retard à l'époque. Peut-être pas autant qu'aujourd'hui, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même bien 2-3 mois de retard. Mais on n'a jamais été très ponctuel, disons.
Peu importe.
En tout cas, c'est très très chouette. Bon, on vous conseille d'écouter pour ceux qui ne connaissent pas.
Je suis obligé de caler la petite anecdote, du coup, parce que, pardon, on n'existerait pas sans l'apéro du Captain. Puisque.
On vous a inspiré.
Et complètement. Mais puisque, je le rappelle, une idée en étant au Maroc, en faisant de l'escalade. Et ce qui nous a rapprochés, c'est le fait qu'on écoutait tous les deux l'apéro du Captain.
D'accord.
Alors qu'on faisait de l'escalade
tout
à côté du désert de l'Atlas.
Exactement. Okay. Et en plus, depuis.
Il y a des gens qui nous écoutaient en faisant de l'escalade.
Et oui.
Dans le désert de l'Atlas. Okay.
C'est beau.
Ça va partout.
Ça va rejoindre mon bûcheron japonais et le mec qui était perdu en Corée du Sud.
Et c'est comme ça qu'on a connu aussi Vincent qui fait le vin Pélissol.
Bien sûr. Vincent Bonal.
Un vin délicieux. Donc voilà, vous avez amené plein de gens, des personnes qui nous proposaient des sujets aussi, qui nous avaient connus grâce à vous, des gens qui étaient venus à l'anniversaire, des 1 an aussi, qui nous avaient connus grâce à vous aussi. Donc top, très chouette. Donc on vous conseille d'écouter l'apéro du Capitaine.
Le podcast est une petite communauté.
Ça va bien.
Ça va très vite.
Depuis 9 ans, c'est pas mal. En plus, vous avez eu un petit article récemment, il me semble.
Oui, sur 20 minutes. On perd pas espoir de récupérer un jour notre fiche Wikipédia qui a été honteusement supprimée il y a 4 ans parce qu'on n'était pas assez connus.
Voilà, ça devrait faire.
Je suis pas sûr.
Bah, sinon, cet été, vous ferez la ligne du monde ou un truc comme ça. Ça ira très bien. Bon, en tout cas, ça me fait très très plaisir de te recevoir. Vraiment,
tant mieux, tant mieux. Merci de me recevoir parce que quand même.
Bah, grand grand plaisir. Et du coup, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Il me semble que pour changer, on va commencer par Camille.
Ouais.
Absolument. Ah. Et moi, je vais vous parler il y a eu beaucoup de bruit avec le passage aux 80 km/h la plupart des nationales. Et donc moi, j'ai eu envie, là, comme vous prenez tous la voiture pour aller en vacances, de vous parler de l'histoire du code de la route. Voilà.
Très bien. Moyen-Âge, j'imagine. Enfin, classique.
Bien
on
sûr,
peut résumer
sûr,
ça.
L'an 1000.
Voilà. Après, on va passer à Captain.
Oui. Tout à fait. Et donc, je vous donne mon sujet tout de suite. Je vais vous parler des armes à feu fabriquées avec des imprimantes 3D, entre autres.
Parfait.
Parce que c'est un peu ma passion. Les gens qui
font des trucs totalement...
Pour s'autodétruire, c'est un peu un truc qui me passionne, si tu veux.
J'aime la mort.
Et donc, dès que je vois des articles comme ça, je les mets de côté précieusement. Et j'en avais déjà parlé, mais là, je vais vous faire une petite mise à jour.
Ah, parfait. Voilà. Oui, parce que c'est d'actualité. Il y a des petits trucs qui ont changé.
Oui, tout à fait, justement.
Parfait. Après, ce sera Juan.
Après, ce sera moi. Je vais pas faire un sujet à proprement parler. On va faire un débat. En fait, je vais vous lancer des questions par rapport au transhumanisme. Ça fait longtemps que je parlais du fait de faire un sujet sur le transhumanisme. Mais en fait, ce sera un sujet qui durerait 6 heures où il faudrait avoir des intervenants extérieurs pour être objectif, et du coup on va en parler ensemble. J'ai essayé de réduire ça à 5 questions pour avoir un petit peu vos avis, et on ne résoudra pas la question du transhumanisme aujourd'hui, malheureusement.
C'est con parce qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés, je pense.
Mais je donnerai une légère bibliographie pour ceux que ça intéresse.
Cool. Asimov,
pour les plus loin. On parlera pas d'Asimov.
Il fait pas trop de transhumanisme d'ailleurs, je crois. Bref.
Oui, puis il fait de la fiction aussi.
Mais commence déjà par du name dropping, ouais, je suis perdu.
Ok,
on en reparlera, mais okay.
On terminera avec toi, du coup.
Avec moi, effectivement, j'ai parlé de l'immunité diplomatique et de la diplomatie et de l'immunité diplomatique, plus particulièrement, tout bêtement parce que je me demandais comment ça marchait et pourquoi ça devait exister et à quoi ça servait et pourquoi ça part potentiellement en couille. Donc,
est-ce que c'est cool d'être diplomate? Est-ce que c'est le bon plan?
Ça peut être un extrêmement bon plan, comme ça peut craindre sa race. Donc voilà, c'est tout ce que je peux faire.
Ça paraît très clair. Oui,
voilà.
Très
bien. Mon sujet se résume à ça. Non, mais voilà comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Vous verrez très bien. Je vous ferai un petit sujet.
Cool. Eh bien, on s'y met alors.
Allons-y.
Mais quel connard ce type!
Accélère, nom de Dieu! Accélère!
J'étais sur la route toute la sainte journée.
Alors, le code de la route. Il faut savoir que le code de la route aujourd'hui, il est essentiel parce qu'il y a des millions d'automobilistes en France quotidiennement qui utilisent parfois tous les mêmes routes. On le voit bien lorsqu'on prend le périphérique en voiture. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer, mais il faut savoir que même à l'époque où il y avait moins de véhicules, et j'entends par là des véhicules pas nécessairement automobiles, je peux vous parler
des
aussi
calèches.
De charrettes tirées par des mulets.
Comme Juan a pu en voir pendant ses vacances.
Eh bien, il y avait déjà des bases, entre guillemets, des réglementations qui souvent étaient locales pour permettre de circuler sans trop de problèmes.
Par exemple, priorité à droite et tout, ça existait.
Non, en général, ça c'est la priorité du plus fort. Mais ils sont encore
du
comme ça.
Gros.
Voilà, et ça c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits.
Oui, pour prendre l'étoile.
Voilà, par exemple.
La ville de Marseille.
je ne sais pas pour ceux parmi vous qui êtes allés à Pompéi. À Pompéi, vous pouvez voir notamment ces énormes passages piétons qui sont absolument magiques.
Ah oui, parce qu'ils sont, ils sont en relief, quoi.
Oui, ouais. Ils sont en relief parce qu'il faut laisser passer
les roues,
effectivement, des chars. Donc ça a été calculé pour permettre à des bœufs de passer et ensuite d'avoir le char ou la charrette. Et donc ça fait des énormes parpaings sur lesquels tu sautes. Tu sautes de parpaing en parpaing pour.
Ouais.
Et il y en a plein. C'est-à-dire, il n'y en a pas que 4 pour toute la ville, il y en a tous les 50 mètres, hein, littéralement. Ouais. Donc il y a plein de petits passages piétons.
Putain,
à
tu vas au taf, tu dois jouer à la marelle, c'est insupportable.
Ce dire c'est exactement ça.
Il y avait un écart réglementaire sur les roues de char, en fait.
Forcément. Ben, pour avoir.
Ah bah oui, parce que sinon.
Mais oui, et je pense quand même que l'écart est assez large parce que à Pompéi, il y a quand même une belle petite distance. Hein, c'est-à-dire, tu essayes de prendre des passages piétons de Pompéi avec un enfant de 3 ans, il se rétame et il a plus dedans, quoi. Hein, concrètement, voilà. Faut porter l'enfant.
Mais il y en a qui cherchent.
Un moyen de réguler la population assez simple.
Et là, bon, on sort un peu du code de la route, mais on a également l'empereur Auguste qui va vraiment commencer à créer un vrai réseau routier en Europe en mettant des bornes, en mettant des messageries, donc enfin ce qu'on appelait en gros des postes, donc des endroits où vous pouvez changer votre cheval pour avoir un cheval neuf en quelque sorte.
Comme des stations essence au final.
Parce que le vôtre est en train de crever. C'est un petit peu le concept des aires de repos parce que du coup tu pouvais manger, boire un petit coup à la taverne de Maître Canter. Et ce genre de choses. Mais les vraies, entre guillemets, règles qui vont vraiment concerner la façon de conduire, en France, elles apparaissent assez tardivement, elles apparaissent au XVIIIe siècle. Oh, et putain. Elles concernent Paris, au début. Donc, comment ?
Bintien. Me voilà étonné.
La première, elle date de 1725. Et donc, en fait, on va imposer en 1725 un nombre de chevaux concernant qui peuvent tirer en fait, le véhicule selon le poids ou le nombre de roues de votre véhicule. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la plupart des routes sont en sol meuble. Ça va être de la terre battue ou quoi. Et donc, plus vous mettez de chevaux,
plus ça défonce la route.
Voilà, plus ça défonce la route. Donc, on en a un petit peu marre de refaire les routes toutes les deux minutes. Donc, du coup, on essaye de faire pour que les gens... Enfin, avoir beaucoup de chevaux qui tirent votre petite charrette, ça veut dire que vous êtes riche, que vous avez les moyens d'en avoir beaucoup. Donc, les gens, des fois, avaient vraiment des véhicules de merde, mais se la pétaient avec
c'est
des
chevaux. C'est marrant comme ça n'a pas changé, en fait.
Bah ouais, c'est ce que fait Hidalgo avec les stickers critères, là. Avec les...
Oula, quoi ? Vas-y,
bah, ça dénonce.
Bah non, c'est vrai, mais c'est bien ce qu'elle fait.
Par rapport à quoi ? La puissance du moteur, tu
veux non, dire ? Du carbone qui sort des
ah
trucs.
Ah oui, oui. Okay. Ah
voilà, il y a peut-être la même chose.
Tu sais, les numéros 1, 2, 3.
Il y a peut-être la même chose sur les charrettes avec le méthane, quoi. Tu vois,
tatoué
sur le cul des chevaux.
Non, mais
les particules fines.
C'est vrai que c'est amusant parce que t'avais un mec qui avait une pauvre petite charrette en bois pour aller au boulot, mais il pouvait, s'il avait le kiff, il pouvait mettre 6 chevaux, quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, les rois se sont dit « Non, mais ça sert à rien de mettre 6 chevaux pour ta charrette qui a uniquement 2 roues. » Alors après, il y avait déjà des réglementations. Par exemple, avoir 8 chevaux, c'était réservé aux ducs et aux duchesses, aux princes du sang. Enfin, voilà, il y avait quand même... On pouvait pas faire tout à fait ce qu'on voulait. Mais là, ça a vraiment permis de réglementer et d'avoir également moins de chevaux un petit peu partout dans Paris parce que les rues étaient étroites. Et donc, avoir un truc avec des tas de chevaux dans tous les sens...
Ça chiait partout.
Voilà, déjà. C'est pas pratique.
Ça devait consommer, putain.
Ouais.
C'est un peu l'équivalent des mecs qui roulent en Jeep à Paris aujourd'hui. Quoi. C'est les grosses Jeeps qui...
Exactement ça.
Où il faut une échelle pour monter.
Et donc le XVIIIe siècle, c'est également la période des premiers accidents de véhicules automobiles. Étant donné qu'à cette époque-là, il y a une automobile qui est créée, qui s'appelle le Fardier de Cugnot.
Très bien.
Ouais, et donc en fait, j'ai regardé les photos, les photos, les représentations.
Ouais.
Et donc je crois que c'était fait pour transporter si ma mémoire est bonne, pour transporter du matériel. Enfin, le but n'est pas de déplacer des êtres humains avec cette chose, mais il y avait un être humain dessus et ça fonctionnait avec de la vapeur. Donc devant, vous avez un énorme chaudron, en gros, qui produit l'énergie pour que le truc avance et ça va à vitesse de pointe de 3 km/h quand même. C'est...
Ah bah génial.
Mais tu fais ta soupe en même temps, tellement pratique.
Mais du coup, c'est pas du tout maniable. Et donc, on sait qu'en avril 1770 à Paris, il y a eu un accident. Il y en a un, en fait, qui a fait le fifou avec son Fardier de Cugnot. Étant donné qu'il est monté à 4 km/h au lieu de 3, tu vois, le type.
Il est chaud.
Il a poussé. Ouais. Et à cette époque-là, on n'a absolument aucune idée de comment manier
un
véhicule qui va aussi vite. Et donc, du coup, ça a foncé dans un mur. Mais il n'y a pas eu de mort, je vous rassure. Ah, l'histoire se termine bien.
Mais attends, mais à 4 km/h, le mec, il a carrément eu le temps. Il a même pas sauté. Il a eu le temps de descendre de la.
Attention,
ça va le percuter.
C'est des Suisses, c'est ça.
C'est vrai que 4 km, ça fait pas beaucoup. Hein.
Bah non,
on marche à combien? On marche à...
En moyenne, c'est 5, entre 6, 4 et 7,
ouais.
Je crois.
Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça n'était pas fait pour transporter des hommes, ça n'aurait aucun intérêt.
Bah non.
Voilà.
Pour se la péter.
Sauf éventuellement mamie pour aller à la kermesse ce dimanche, mais voilà. Et donc, on a ce premier accident automobile en France, et le 17 septembre 1786, donc au final, 15 ans plus tard, on a le premier délit de fuite. Voilà,
à 4 km/h.
Le premier connard. Et donc,
il était poursuivi par une voiture de police qui allait moins vite que lui. Donc,
non, mais alors là, il ne s'agit pas d'un véhicule automobile. Il s'agit d'un véhicule avec, tiré par des chevaux. Mmh. Mais c'est un type qui a écrasé un mec et qui lui a fracassé le crâne. Donc le monsieur est mort. Et il s'est enfui avec son carrosse. Et la police s'est dit merde, ça nous était jamais arrivé. D'habitude, il s'arrête.
Où est mon gyrophare? Merde.
Et donc, on s'est dit, on va peut-être compter ça comme un délit, les gars. Parce que franchement, il n'y a plus de respect.
Ouais.
Il n'y a plus de respect, quoi. Écraser Michel, d'accord. Mais... Et on n'a jamais retrouvé le mec. Donc, comme quoi, dans Paris, c'est possible de t'enfuir avec Carrosse.
Ouais. Ne le faites pas d'ailleurs.
Non, non, non.
De t'enfuir en calèche, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de risque.
Mais pour ce qui va être vraiment de codifier, de jeter des bases et des règles, à votre avis, qui va être le personnage français qui va dire vraiment, qui aime bien codifier les trucs?
Napoléon Bonaparte.
Oui, c'est oui, Napoléon.
Tu te rends compte qu'en fait, on t'écoute?
Mais oui.
Enfin, tu nous as appris des choses, c'est ouf. C'est impressionnant.
Donc Napoléon, en 1804, il va faire une règle qui aujourd'hui est une de nos grandes, grandes règles.
Règle
c'est lui
3.
Qui va rendre la conduite obligatoire à droite.
Ok.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire qu'avant, on a plutôt tendance à conduire, entre guillemets, sur la gauche.
C'est pour ça que les Anglais...
J'y arrive.
Ah,
j'y arrive.
Ouais. Spoil.
J'y arrive. En gros, avant, on avait tendance à plutôt conduire, se déplacer sur la gauche, étant donné que les chevaliers portaient leur épée à droite. Enfin, c'était pour éviter que, du coup, ça s'entrechoque quand ils se croisaient.
C'est
et Napoléon va faire une bataille. Je ne sais plus laquelle, mais où là on est au début de
la bataille de la 13.
On est au début de sa carrière, donc c'est les périodes où il baisait un petit peu tout le monde. Et
alors,
en fait, il y a
en combat.
Hein. Hop, une petite zipette là.
Pardon, excusez-moi. Où il gagnait un petit peu contre tout le monde. Et donc à cette époque-là, les batailles se font dans des champs de bataille. Il y avait une colline et l'élégance voulait que lorsqu'on attaque une armée, eh bien, il fallait l'attaquer par la gauche. C'était l'élégance. Et Napoléon, il s'est dit, je vais faire le traître, je vais les attaquer par la droite.
Quel chien, ce Napoléon. Puis surtout, c'était l'élégance.
Aucun respect.
Voilà. Il s'est dit, aucune élégance. Et donc, il a eu ses adversaires en les prenant par la droite, par l'effet de surprise, en fait. Et donc, il s'est dit, pour célébrer ça...
On va conduire à droite.
Il l'a imposé dans toute l'Europe. Et les Anglais ont dit, eh bien, nous, on continuera de rouler à gauche
et on
pour
merde.
Faire chier Napoléon. Exactement. Voilà. Donc,
on est légitimement sur une information que je ne connaissais pas du tout.
Ouais,
je tombe des nues.
Napoléon est plein de surprises quand même.
Oui,
on croit tout savoir.
Il a tout fait.
Voilà, il est formidable. Alors, en 1852, ça c'est une information vraiment, il faut que je vous la donne, on définit que la longueur maximum des essieux sera de 2,50 m.
Oui,
voilà.
Et ça se répercute encore aujourd'hui. C'est comme vous le découvrez dans notre épisode spécial qui sera déjà sorti, en fait, on enregistre ça, mais il sortira avant. Voilà.
Les essieux, c'est les trottoirs?
Non,
les essieux, c'est le châssis qu'il y a entre les deux roues.
Ouais.
D'accord, ok.
Moi, je pense qu'en fait, on s'est dit qu'on allait faire ça, étant donné que de toute façon, ça ne passait pas dans la plupart des rues, sinon, donc je pense que ça a été une déduction logique. Alors. En 1893, donc là, on commence vraiment à se rapprocher salement de notre époque, eh bien, il y a vraiment les véhicules automobiles qui commencent à se développer. En 1893, quand même, c'est quand même absolument foufou, il y a 1700 véhicules automobiles en France.
Eh, principalement à Paris, j'imagine.
En 1893
ouais. Donc, il y a 120 ans.
Ah ouais, ça, c'est pas la vie, hein.
Le Fordisme, Ford et tout ça, c'était...
C'est un peu après.
Début du 20e siècle.
Ouais, c'est ça, je dirais les années 30, je sais plus, okay, un truc comme ça. Ouais. Années 20, années 30.
Avant, un petit peu avant la guerre mondiale, non?
Ouais, je sais plus.
C'était avant la guerre mondiale.
Non, mais avant laquelle?
La première.
Ah bon? Le Fordisme?
Bon,
bref.
Non, la deuxième.
Tu nous feras un petit sujet sur le Fordisme.
Ouais, c'est
oh! Alerte digression. Merci de libérer le micro afin de retourner au sujet.
C'est insupportable.
C'est bien, vous avez prévu des jingles pour tout. C'est une bonne chose.
Il est tout nouveau celui-là.
Bah, il est vachement bien.
Hicham l'a fait aujourd'hui.
Si tu peux me l'envoyer éventuellement, ça pourrait me servir.
Ouais, mais connaissant Manox et quoi, c'est moyen qu'il le spam et ça peut être dangereux du coup.
Ah bah, tu entendras avec ça.
Si on essaye. Hein.
Ah mon dieu. Voilà. C'est bon, allez,
je peux continuer mon sujet ?
Absolument.
Voilà, merci bien. Donc en 1893, il y a 1700 véhicules en France, comme je vous disais, donc ça commence à être un petit peu foufou, hein, essentiellement à Paris en plus, donc Paris n'est pas du tout une ville adaptée pour des véhicules automobiles. Hein.
Toujours pas d'ailleurs.
Encore des pavés partout. Oui, mais là, à l'époque, en plus, il y a les pavés.
Oui.
Tu vois, et les rues toutes étroites.
Si je chope celui qui a créé ces putains de voies romaines.
Merci, mais 68.
Donc du coup, on va mettre en place quelques obligations. L'obligation d'avoir une autorisation de conduire, ça c'est à Paris. Donc cette autorisation de conduire, en fait, elle se fait, vous allez passer en gros une petite visite médicale. On va vérifier que vous êtes apte à toucher les pédales.
Vous avez deux bras, deux jambes.
Voilà, que vous n'êtes pas aveugle.
Les jambes assez longues.
Et on vous donne ça. On vous donne cette autorisation ce certificat de capacité, en fait, à conduire. Et on va mettre les premières délimitations de vitesse. 12 km/h pour Paris, max.
Ah, c'était strict.
Et 20 km/h pour tout le reste de la France.
Ah ouais, okay. Donc ça fusait, quoi.
Ah bah,
on a la peine de nous faire chier avec le 80 km/h maintenant.
Ça pourrait être à 20, les gars.
Et dans les premiers temps, notamment au Royaume-Uni, à Londres, où il va y avoir rapidement beaucoup d'automobiles, il y a les premiers accidents meurtriers. Enfin, il y a les premières victimes officielles de la route.
Oui, en plus,
il
y avait zéro carrosserie à l'époque.
Ça devait être une
boucherie. Hein,
voilà, c'était vraiment que du truc extérieur. Bah, souvent, malheureusement, c'était avec des piétons. Hein. C'était pas voitures qui se rentraient dedans.
Je l'ai parlé.
Voilà, mais c'était avec des piétons. Et... Donc voilà. Donc
c'était avec des piétons.
Quand tout à coup,
n'est-ce pas? Et en 1901, il va y avoir pas mal de petits accidents et de délits de fuite. Pas mal de piétons qui manquent de se faire renverser à Paris, mais qui survivent et qui se disent, bah purée, le type, il s'est cassé tout chou, ça à 20 km/h avec sa voiture, j'ai rien pu faire. Ce serait bien qu'on ait quelque chose pour les reconnaître. Donc on se dit, bah tiens, si on numérotait les véhicules, comme ça, on peut
exactement.
Et en plus de, enfin, on va faire une numérotation pour les véhicules, mais uniquement pour les véhicules qui peuvent dépasser les 30 km/h.
Voilà, okay,
c'est seulement dans les années 20 qu'on se dit, bah non, en fait, on va numéroter tout le monde, hein, ne nous embêtons pas. Et en 1901 également, on va installer les 4 premiers panneaux de signalisation.
Les 4, ils étaient où?
sur la route entre Paris et Trouville.
Ah, attends.
4.
C'est pas 4 panneaux différents.
Non.
C'est pas genre le stop, attention.
Non, je crois que c'était priorité à droite, pour tout te dire. Et il y en avait 4.
C'est un début, mais c'est un début.
Oui,
voilà.
Oui, c'est bien commencé.
Et c'était un axe super fréquenté, étant donné que beaucoup de Parisiens passaient le week-end dans la maison de campagne à Trouville.
C'était la mode.
Alors, en 1904, il y a en Lorraine un type qui est le président de l'Automobile Club Vosgien. Qui se dit, et les gars, si on définissait un code de la route, voilà, vraiment des limites à ne pas franchir. Et donc, ils vont se faire un code de la route privé. Et ce code de la route, eh ben, il y a plein d'autres associations, des amoureux de l'automobile, en fait, un petit peu partout, qui se disent, oui, c'est super important, faisons-le, etc. Et donc, ce code de la route va remporter un franc succès, donc c'est assez basique. C'est-à-dire un âge minimum pour conduire, des règles de base à respecter. On commence aussi à se mettre d'accord sur le principe de double sens sur les voies, parce qu'au début on n'avait pas du tout calculé, les routes étaient trop étroites, donc qui était prioritaire? Et c'est un si grand succès que en 1909, eh bien l'État va faire la création d'un projet de code de la route officiel que du coup tout français devra suivre. Et afin d'essayer d'appliquer ça, en 1917, on ouvre la première auto-école. Mais je précise que le passage par une auto-école n'est absolument pas obligatoire pour pouvoir conduire à cette époque-là.
Quand même se prendre des prunes ou pas?
Non.
C'est vraiment histoire de quoi.
C'est
un code de bonne conduite quoi.
En quelque sorte.
On te réprimande quoi si jamais t'as écrasé quelqu'un.
Mais tu peux conduire bourré. L'important une fois de plus c'est que t'aies tes deux mains, tes deux pieds, que tu sois pas aveugle. Hein. On est toujours là. Voilà.
Okay.
Et le vrai code de la route, il apparaît. Enfin ce code de la route, je vous dis, on commence à faire le projet. Qui est mis en place par l'État. On commence à y réfléchir en 1909, mais on ne le finit qu'en 1921. En même temps, on a eu une époque où les automobiles changent vite, donc pendant qu'on est en train d'écrire, on fait « Ah merde, on n'a pas pensé à ça !» Et tac, il rajoute des choses au fur et à mesure.
Surtout qu'il y a un petit truc qui a duré 4 ans entre les deux. Quoi.
Oui, ouais, je pense qu'ils ont eu autre chose à faire. Absolument.
Les occuper, voilà.
Et en 1922, le certificat de capacité devient officiellement le permis de conduire.
Bam!
Voilà, et donc il devient nécessaire. Ce permis de conduire, c'est une fois de plus encore essentiellement concentré sur vos capacités physiques à conduire un véhicule. Mmh. Voilà, et il s'adresse directement, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux mineurs. Tout le monde en fait peut conduire à partir du moment où il est jugé apte.
Il n'y avait pas de limite d'âge.
Pas nécessairement. Je pense qu'après.
C'est à 10 ans, mais que tu vas mettre 80.
Pédales, quoi. Ouais. Mais c'était quoi? C'est un examen médical, du coup?
Oui, c'est un examen médical. Peut-être qu'éventuellement, on te demandait de faire un petit tour avec la voiture pour voir si tu la manipulais bien. Mais c'était super basique.
Quelle belle époque.
C'est
quelqu'un qui n'a pas son permis qui vous dit ça.
Et on rend un apprentissage du code de la route obligatoire. Donc, entre guillemets, un examen du permis de conduire obligatoire seulement en 1957.
Donc,
1957, on est quand même dans une période...
ils ont eu le temps de faire des erreurs, quoi.
Voilà, et ça va être obligatoire, ça va être suivi vraiment à Paris, beaucoup moins en province. Moi, mon père, il se rappelle de l'époque où on pouvait conduire sans permis. Et du coup, c'était un petit peu la fête du slip, quoi. Tout le monde conduisait assez facilement. Et les choses évoluent tranquillement, c'est-à-dire que il y a pas tant d'accidentés de la route que ça. Les gens font plutôt attention. Faut dire qu'il y a quand même toujours pas énormément de véhicules en 1957, même si on a beaucoup plus que 50 ans auparavant. Et en 1972, eh ben, le gouvernement se prend une énorme claque dans la gueule. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui en moyenne de combien il y a de victimes, de décès à cause des accidents de la route par an, ces temps-ci?
Moi, j'aurais dit 40.
50 000, mais tu es dingue. 50 000.
Mais j'en sais rien, moi, tu me dirais, poses une question.
Moi, je dirais moins de 10 000, 5 à 6 000.
Ces temps-ci, ces dernières années, on est dans les entre 3 000 et 4 000.
Ah bah voilà, tu vois, là, c'est une bonne nouvelle pour moi. Je pensais que c'était 50. Très bien.
En 1972, il y a eu 18 034 morts sur les routes.
Ça fait beaucoup.
Ce qui est énorme.
C'est 50 000, ils sont ridicules.
Je viens sur un truc, mais je m'étais jamais posé la question. Mais genre l'épisode des taxis de la Marne, par exemple.
Ouais, alors là, tu remontes à la guerre quand même.
Taxi.
Oui, personne n'avait le permis.
Oui, mais c'était pas très grave pour la guerre. Enfin,
non, mais c'était
l'effort de guerre, on leur pardonnait.
C'était pas une question que je m'étais posée. Genre, en fait, ces mecs n'avaient pas le permis finalement.
Non.
En même
non,
temps,
non.
Les taxis voilà. Aujourd'hui ont-ils le permis?
Oui, voilà.
C'est quoi le taxi?
Vous avez deux heures.
Taxi de la Marne, on va résumer très très vite. C'est les taxis qui ont été réquisitionnés pour l'effort de guerre. Pour amener des troupes et machin.
Absolument.
Ah, ouais, l'État qui leur a dit genre hop, faut qu'on aille faire la guerre. On n'a pas des voitures assez grandes, ramenez-vous.
Ils ont dit on n'a pas la carte bleue, on a perdu la guerre.
On fera une autre.
Ok, merci.
Et donc, en 1972, du coup, c'est l'année la plus meurtrière dans l'histoire des accidents automobiles en France. On a, Dieu merci, encore jamais explosé ce score. Bah. Et cette année-là, le gouvernement flippe, se dit, mais mon Dieu, les Français font un petit peu n'importe quoi malgré ce fameux permis de conduire. Et donc, en fait, c'est depuis 1972 que le gouvernement, d'année en année, rajoute des contraintes. Donc, c'est là qu'il va y avoir les premières restrictions sur l'alcool.
Ah, bah enfin,
utile. Ouais.
Donc, l'alcool, en fait...
Et encore.
Ouais, en 72, en fait, c'était 1,2 g par litre.
Oh la vache!
Alors qu'aujourd'hui, on est à 0,2, je crois, c'est ça.
0,5.
Voilà. Et en 95, on passe à 0,5.
Alors, si t'es bourré, tu peux conduire, mais si t'es bourré. Non.
Ils avaient des mécanismes à l'époque pour calculer comme ça, à la volée.
Bah, à la prise de sang, je pense.
Ouais, bah, la prise de sang, tu fais pas sur la route, le temps de les amener, le temps d'avoir le résultat, dans les années 70,
ouais,
tu peux y aller.
Il est parti, ouais,
je pense qu'on était sur du marché sur cette ligne, non?
Ouais, ça devait être ça.
Chanter la Marseillaise à l'envers.
Oui, non, mais oui, ça devait, oui. Faites ça, tu sais, passer la main sous le genou, et passez-vous le nez.
Et du coup, tu calcules les grammes comme ça, tout à fait, lui.
Bah oui.
J'aime votre praticité.
Plus vite tu tombes, plus vite t'es bourré. Voilà. Et il y a également en restriction la ceinture de sécurité. Donc moi, la ceinture de sécurité, ça m'a beaucoup fait rire, étant donné qu'on l'impose en 1975, mais uniquement entre 23h et 6h du matin. Je trouve ça plutôt génial.
Moi,
je
me rappelle quand j'étais gamin, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire.
Et que pour le conducteur.
À l'arrière. Je me rappelle quand ils l'ont obligé à l'arrière. C'était dans les années 80, je pense. 80.
C'était en 1990 qu'elle a été...
Ah, oui.
Ouais.
Voilà. Et ça râle bien.
En 75, elle est obligatoire, donc uniquement à l'avant et entre 23h et 6h du mat. En 79, elle est obligatoire tout le temps à l'avant. Et en 90... elle devient obligatoire de façon généralisée.
Je pensais que c'était plus tard que ça. Mais,
Mais avant 90, c'était uniquement pour le conducteur, c'était aussi pour le passager.
Ouais, c'est également pour le passager.
J'ai l'impression que c'était pas
le cas. Mais c'est trop drôle parce que son père, il nous avait raconté, il nous parlait justement de ça. Et puis je lui dis, ouais, la ceinture de sécurité servait à rien avant. Il me dit, bah non, carrément, c'était un accessoire en fait à l'époque.
C'est simple, quoi.
Mais c'est ça.
Mais en
considérer
fait,
les
premières voitures avec la ceinture de
ouf.
Sécurité qui sortent, justement, c'est en 71. Et en fait, c'est le top de la classe d'avoir une bagnole avec une ceinture de sécurité. C'est super chic, mais personne la met en fait. Tu t'assois dessus, mais c'est juste que c'est chic.
D'accord,
c'est le petit, tu vois, c'est le petit, le petit truc plus époque. Plus.
Aujourd'hui, avec la toit ouvrant, quoi. Peut-être que dans 10 ans.
Voilà. Mais voilà. Ensuite, bon bah le reste, on la connaît. Au-delà des années 90, on se rappelle à peu près tous des différentes choses. Mais voilà, j'avais envie.
On
de
se rappelle
vous...
des questions sur les pneus neige au code de la route, putain. Alors que j'ai jamais eu à mettre des putains de pneus neige.
Et les routes secours, ce genre de choses. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu l'histoire du code de la route avant que vous preniez la route pour les vacances.
Et bien, on en est ravis.
Et soyez prudents.
C'est bien.
On le saura.
Bah, c'était parfait. Ça me fait un peu flipper, par contre, quand tu me fais ce genre de sujet, que je sens des gradations dans les lois qui arrivent petit à petit. Parce que quand je vois une petite loi qui nous tombe sur le coin de la gueule, je me dis, ouais, mais tu verras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai moins 5 euros d'APL, moins 25, moins 500. Enfin bref, c'est un autre sujet.
Ok, donc on passe du coca à l'âne.
Ne fais pas d'études d'histoire parce que tu vas vraiment te déprimer, en fait, de ce point de vue-là.
Donc, il y a des chances. Bah, déjà, la dernière fois, avec quoi? Ils apprenaient pas à lire aux femmes. J'étais en train de savoir, mais.
Mais c'est assez logique, mais bon.
Très très cool, merci.
Oui.
Du coup, on va passer à un petit grand écart vers le sujet du Captain.
Oh, Captain, my Captain.
Sujet est un bien grand terme. On va débattre aussi, tu vois, c'est ça. Côté improvisation, moi, j'aime bien.
On va essayer de faire ça.
Je clique sur imprimer.
Et voilà le travail.
Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux.
Alors, sujet dont j'avais déjà parlé, mais vous ne l'avez pas forcément écouté, parce que c'était il y a très très longtemps. C'était en 2012 qu'on commençait à parler de ça un peu. Alors, le sujet de fabriquer soi-même ses armes, je sais pas, j'imagine que personne autour de vous l'a fait autour de cette table.
J'ai pas essayé. Non, alors non, si, j'ai déjà fabriqué une fronde.
Voilà, bon, ça sert à arrêter là.
Dire, ouais, voilà.
Et j'ai déjà essayé de fabriquer un pistolet en bois, parce qu'il y a une mécanique pour faire un pistolet
avec des élastiques.
Avec
des boîtes d'allumettes.
Non, mais tu peux vraiment fabriquer une arme létale quand elle est utilisée à bout portant avec du bois.
Oh là là, vous me faites peur.
Bon, ouais. Oui, il y a plein. Après, voilà, on peut être original. Il y a plein d'idées, si tu veux, pour s'amuser comme ça. C'est un peu du do-it-yourself.
Voilà. Mais pour tuer des trucs.
Voilà. Alors bon, la législation pour les armes, on la connaît dans les différents pays du monde. En France, c'est plutôt pas autorisé. Bon, évidemment, t'as le droit aux armes de chasse,
pas,
etc.
Oui.
Et voilà. Par contre, aux États-Unis, c'est le second amendement.
Open bar.
Ah bah c'est...
Voilà. Donc, ouais. on touche pas au second amendement aux États-Unis. En tout cas, bon, vous avez des pro-NRA et il y a énormément de monde qui tient ce second amendement qui dit que si tu as le droit de porter une arme à feu pour pouvoir te défendre. Mmh.
Voilà, ça, c'est... Quel que soit l'âge d'ailleurs aux États-Unis, je me suis
alors justement,
demandé...
oui, il n'y a pas de limite sur l'âge. Ouais, et, tout à fait, il n'y a pas de limite sur l'âge au second amendement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir, il y a un documentaire, une série en fait documentaire qui sort qui est fait par Sacha Baron Cohen,
ouais.
Qui s'appelle This is America.
This is America.
Et regardez le trailer.
Who is America?
Who is America, peut-être, ouais, exact. Regardez ça, parce que d'accord. C'est, donc il est allé, il s'est déguisé, il est allé interviewer des gens et pro-NRA, si tu veux. Et effectivement, ça parle du fait qu'il n'y a pas de limite
chose, ouais.
sur le portage. C'est absolument excellent.
Il est allé jusqu'à piéger Sarah Palin, je crois, avec ce truc.
Alors, j'ai juste vu le trailer, en fait, mais le trailer dure 9 minutes. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça devrait vous interpeller. Tout ça pour dire que ça pourrait sembler un cauchemar, mais pourtant, nous y sommes, ça y est. Chacun peut aujourd'hui créer son arme chez lui à peu de frais. Alors avant, c'était un fantasme. Imagine, créer une arme à feu, ça semble compliqué. Il faut travailler le métal, il faut connaître, c'est très précis, etc. En 2012, en fait, on a quelqu'un qui s'appelle Cody Wilson, qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. C'est le héros de ce qu'on appelle le crypto-anarchisme. Alors le crypto-anarchisme, c'est quoi ? C'est un anarchisme lié à Internet et au fait qu'on puisse... faire dire ce qu'on veut, évidemment, ça c'est le premier moment, mais surtout diffuser des choses sur Internet qui ne sont pas autorisées normalement.
Et le fait c'est ce qui est guérilla libertarien, c'est ça.
Okay. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en plus Cody Wilson, il est un peu particulier, il est censé être de gauche, enfin bon, aux États-Unis la gauche c'est pas forcément celle qu'on a ici.
Oui.
Il est pro NRA et vraiment une de ses fixations, c'est le fait que tout le monde ait le droit d'avoir une arme. Mmh. Et pour que tout le monde ait le droit d'avoir une arme, lui, son idée, c'était que avec les nouvelles technologies et particulièrement les imprimantes 3D, on pouvait enfin avoir un accès total à ça. Et ce qu'il suffisait de faire, en fait, c'était de créer des armes à feu en 3D. Et il l'a fait. Il a créé ce qu'on appelle le Liberator, qui est la première arme. Qui était faisable sur une imprimante 3D classique. Il on peut acheter aujourd'hui, franchement, une imprimante 3D, ça coûte quoi?
200 euros.
Voilà, ça commence à 200-300 euros. T'en as une très bonne à 1000 euros, 1500, 2000 euros. Et il a donc créé cette arme qui s'appelait le Liberator et il l'a testée. Alors évidemment, c'est une arme en plastique. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, évidemment, c'est que ça passe les portiques d'aéroport.
Exactement. C'est un inconvénient pour les forces de l'ordre.
Alors, c'est un inconvénient pour les forces de l'ordre. Pour ceux qui voudraient, effectivement, pouvoir voyager tranquille avec leur arme, c'est pas mal.
Mais les balles, du coup.
C'était effectivement pas à usage unique. Je crois que les dernières versions qu'il a faites de son Liberator, il pouvait quand même tirer 3-4 coups avant que l'arme tombe en morceaux ou t'explose à la gueule.
Mais les balles sont pas en plastique.
Non, alors ça, évidemment, c'est autre chose.
Il se fait couiller.
Les munitions, ça reste autre chose.
Les munitions.
Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est ce passage, si tu veux, du Fab Lab à l'armurerie un peu personnelle que tu peux avoir chez toi, c'était une grande étape. Et surtout, c'est pas le fait qu'il a réussi à le faire, parce qu'il avait fait, il a un channel YouTube, il avait montré tout comment ça se faisait, mais surtout le fait qu'il ait mis à disposition les schémas gratuitement sur Internet.
Ouais.
Donc, il les a mis en ligne. Évidemment, ça a été chargé des dizaines, des milliers de fois. Et avant que le gouvernement fédéral s'en occupe et qu'il fasse retirer ça, ça a duré... 6-7 mois, autant dire qu'aujourd'hui, tout le monde y a accès.
Bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Print the Legend,
ouais, exactement.
Qui parle d'impression 3D, où il parle de ce mec-là qui a mis son, qui a mis son modèle 3D à disposition sur le site d'un, on va dire, d'un revendeur d'imprimantes 3D qui avait fait une bibliothèque commune. Ouais. Et en fait, ça a fait un bad buzz monstrueux pour la marque parce que eux, à la base, leur trip, c'était plutôt de faire des prothèses pour les enfants, etc. Et là, il y a un mec qui a mis à disposition un modèle de flingue qui a été téléchargé énormément.
Ouais. C'est un peu la chaîne alimentaire, si tu veux, du truc. C'est-à-dire que d'abord, tu crées le flingue et après, tu peux, t'as les prothèses pour sauver les personnes.
C'est bien foutu. Damage control.
Ouais. Et donc, ce gars a créé, entre autres, quelque chose qui s'appelle Wiki Weapon, qui était un wiki uniquement dédié à la création d'armes comme ça. Il y a le Liberator, mais il y en a plein d'autres. Parce qu'il allait jusqu'à créer un AR-15. L'AR-15, il est connu parce que c'est ce fameux fusil automatique qui est utilisé pour toutes les tueries de masse aux États-Unis. D'accord. Et donc, il a réussi à créer ça. Au-delà de ça, en fait, il faut rentrer un peu dans la technique. Une arme, aux États-Unis, enfin partout d'ailleurs, c'est composé de plusieurs parties. Aux États-Unis spécialement, il y a une partie qui est considérée comme l'arme en tant que telle. Le reste, c'est quasiment des accessoires. Cette partie, ce qu'on appelle le lower receiver, qui est en fait la partie qui comprend la gâchette et l'introduction des balles quand elles passent dans le canon. Mmh. Okay. Cette partie-là est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui contient le numéro de série.
Okay.
En fait, quand on te vend une arme, on te vend d'abord ce lower receiver, ce, je sais plus comment ça s'appelle en français. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est suivi et ce qui est qui permet de retracer.
Quand tu vas taper une balle, ça va la marquer.
Non, alors ça marque pas du tout la balle. Par contre, il y a un numéro de série normalement qui est gravé sur ce truc-là.
Sur l'arme. Okay.
Ouais, sur l'arme. Et donc, à partir de là, ça permet d'identifier chacun.
Ça va
partir.
Voilà. Savoir qui l'a acheté, ce genre de choses.
Ouais, voilà. Bon, après, ça a des limites, c'est les États-Unis. Je sais pas si vous aviez vu d'ailleurs, il y avait un reportage qui était assez intéressant sur je sais plus quel site, où ils expliquaient que la NRA avait bloqué le fait de pouvoir simplement avoir un fichier qui contient tous les possesseurs d'armes à feu aux États-Unis.
Ouais.
Donc, parce qu'évidemment, c'est pas leur avantage. Plus la NRA lutte contre le fait que les possesseurs d'armes à feu soient
catalogués.
Exactement. Donc, ils avaient fini par obtenir, si tu veux, une sorte d'agrément avec le gouvernement. Ils avaient dit bon, ok, vous avez le droit de le faire. Ok, on comprend que vous ayez besoin de ça. Par contre, ce sera pas numérisé. Donc, en gros, vous avez un endroit aux États-Unis où les mecs reçoivent des caisses de papier tous les jours.
Oh,
et tous les jours, ils prennent ces caisses de papier, si tu veux, et ils ont tellement de papier de mecs qui achètent des armes qu'ils ont des containers maritimes sur le parking où ils stockent les trucs en attendant de pouvoir les traiter. C'est hallucinant, regardez ça à l'occasion parce que c'est très intéressant sur la façon dont fonctionne la puissance de la NRA et ce qu'ils arrivent à faire aux États-Unis.
Si quelqu'un cherche un boulot sympa d'attaché administratif, un truc.
C'est un stage.
Ouais, mais bosser là-bas, ça va être fort.
Mec, tu vas me photocopier tout ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Les mecs, en plus, ils sont journalistes. Donc, en fait, quand il y a la police scientifique qui leur demande à qui appartient cette arme,
les mecs,
ils sont obligés de sortir leur fiche et de faire, ah ouais, mais c'était il y a un an et tout, on n'a pas encore trié, ça doit être dans un conteneur là-bas, on va essayer de le trouver, quoi.
Voici un masque, voici un tuba. Voilà. Démerdez-vous.
C'est ça. C'est à Gaston Lagaffe avec sa bibliothèque.
Ouais. Exactement, c'est un peu ça. Donc, c'est pour donner un peu une idée du truc. Donc, c'est ce qu'on appelle les armes fantômes, en fait, ces armes qui donc seraient créées par les particuliers ou par des armureries d'ailleurs, parce que les armureries, eux, ont la possibilité de créer des receivers. C'est très compliqué, mais ça se fait. Donc, ces armes fantômes, c'est des armes qui ne sont pas officiellement rentrées dans le système, à savoir qu'elles n'ont pas été créées officiellement par un fabricant d'armes, et donc il n'y a pas de numéro de série qui est lié à ça. Donc, en gros, pour avoir sa propre arme aux États-Unis, si tu as ce receiver, le reste, ça s'achète très facilement. Le canon, la crosse, etc.
Limite au drugstore du coin, quoi.
Ouais, tout à fait. Okay. T'as pas besoin de permis pour ça, en fait. Ouais. Parce qu'on te demande un permis pour acheter l'arme en tant que telle, et donc ce receiver, le reste, c'est des pièces détachées. Même les munitions, par contre, tu dois peut-être avoir besoin de quelque chose, mais ça a pas l'air d'être si compliqué que ça à obtenir une fois que...
Mais tu fais même pas tu sais, ils te font remplir un petit formulaire comme quoi t'as pas d'antécédent judiciaire, que t'es pas fou et tout.
Alors, a priori, c'est le cas, mais c'est le cas uniquement quand t'achètes cette arme.
Voilà. Donc,
du coup, si tu as le bloc principal,
donc c'est que pour ça, que pour le receveur.
Ouais, a priori, ouais. Pour ce qu'ils appellent les accessoires, en fait, qui est tout le reste de l'arme, t'as pas besoin de ça, ouais. Est-ce que le canon est un accessoire du receiver? Et donc, c'est vraiment cette partie-là qui est l'enjeu du truc, parce que c'est la seule chose c'est le cœur du mécanisme. Mmh. Et donc, c'est là-dessus que Cody Wilson s'est vraiment penché sur son truc. C'est ça qu'il a distribué. Alors, effectivement, en 2012, il fait ça. En 2013, le truc est interdit et il se lance dans une bataille juridique qui a duré jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2017. 4 ans de bataille juridique. Je me demande si c'est pareil.
Qu'il a perdu.
Devant la Cour suprême. C'est les États-Unis, voyons. Il n'a pas perdu, il a gagné. Ce qui fait que nous entrons le 1er août prochain dans une nouvelle ère, c'est ce qu'ils appellent. C'est l'ère du téléchargement d'armes, puisqu'à partir du 1er août, ce sera totalement autorisé de diffuser des schémas pour les imprimantes 3D sur Internet pour imprimer.
De Donald Trump.
Voilà, sa propre arme. C'est clairement lié. Mmh. Donc, encore une victoire de la NRA qui, évidemment, soutenait Cody Wilson. Donc, la vraie bataille, c'était ça. C'était la libre distribution, en fait, des schémas qui permettaient d'imprimer des armes à feu.
Mais je trouve ça quand même assez étonnant qu'ils soient tous soutenus parle à NRA, parce que je suis pas un expert du tout en NRA, mais ils ont quand même des gros liens avec les revendeurs, toute l'industrie, les fabricants, etc. Or, c'est un modèle qui est un peu du hacking de, oui, de ce marché-là.
À mon avis, ils savent qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire au final.
Ouais, c'est vrai.
Faut voir, parce qu'il faut quand même le vouloir, faut avoir son imprimante, faut.
Surtout qu'ils veulent défendre leurs droits avant tout, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ils disent que ça, c'est protégé, eux seront protégés, et en plus, ça va faire diversion. Et,
Oui, c'est
en
fait, vrai. Devant les tribunaux, Cody Wilson et son association, parce qu'ils ont créé une association qui est dédiée à ça, c'est une grosse association quand même. Ils ont 10 salariés, pour vous donner une idée de ils bossent.
Freegun fight voilà. For mass murder.
C'est ça. Et en fait, il s'est basé sur quoi? Sur les deux premiers amendements. Premier amendement, la liberté d'expression. Et donc,
diffuser
ce que tu veux, exactement.
La liberté d'expression, à ce compte-là, je peux assassiner quelqu'un dans la rue et c'est d'expression, quoi. Enfin,
c'est le deuxième amendement, c'est le droit de porter une arme. Les deux ensemble, effectivement, ouais. Ça, voilà.
Je vous propose qu'on ne discute pas trop la constitution américaine, sinon on est là pour 6 mois.
Oui, bon, je pense qu'on sera tous, on aura tous des avis qui sont à peu près identiques là-dessus. Par rapport à la France, c'est vrai que c'est un gros décalage culturel.
Ah, mais clairement, ouais. Ouais, c'est clair.
C'est hallucinant. D'ailleurs, je sais plus combien de meurtres il y a tous les ans là-bas par arme à feu.
Un par jour, déjà.
C'est plus que ça.
Non, mais c'est
fou.
C'est monstrueux.
Ouais. Ouais, je crois que le top du top, c'est Los Angeles. Los Angeles, c'est.
Bah, on vous ressortira les stats, mais surtout que cette année, ils ont battu des records. Et en plus, avec les mass murders qu'il y a eu depuis le début de l'année, c'est absolument monstrueux.
Ouais. Les fusillades dans les écoles, je crois que c'était quasiment une par semaine depuis le début de l'année.
Ouais, c'est
complètement
c'est
fou. Parce qu'on voit, on entend parler des grosses fusillades, mais des fusillades dans les écoles où il y a un, deux morts, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais en tout cas, c'est très, très souvent. Alors bon. Voilà, donc en gros, c'est plus un fantasme de science-fiction. On est vraiment arrivé à un moment où tu peux le faire. Alors, l'imprimante 3D, c'est un imprimant plastique. Donc, c'est vrai que c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Mais on reste limité par ce côté plastique qui fait que l'arme, effectivement, même si c'est très bien fait, elle va s'autodétruire toute seule.
Parce qu'elle... dire ça fond, en fait, avec la chaleur.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on passe là à l'étape suivante, ça s'appelle la CNC. Alors, les CNC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non, pas du tout. Le Centre National des Cinématographies.
Oui, alors, il y a ça, mais c'est surtout, c'est en anglais, c'est des machines, machines-outils à commande numérique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, elle va partir de rien, elle va te créer quelque chose. Mmh. La CNC, elle va te prendre un bloc,
elle va
découper dedans, si tu veux, pour te faire quelque chose. Ce qui veut dire que tu peux découper dans du métal.
Ah putain.
Ah. Donc tu prends un bloc d'aluminium, et avec, c'est une CNC qui coûte pas très cher, c'est plus cher que les imprimantes laser, effectivement, mais c'est comme si tu avais une petite perceuse, et en fait, ta perceuse, elle va te trouer le bloc, et elle va te le recréer au millimètre près.
Au secours.
Voilà. Et donc, cette CNC qui aujourd'hui, les prix ont énormément baissé aussi, tu peux les acheter pour peut-être 2000 euros, tu as une très bonne CNC. Tu peux créer avec ça et avec les plans donc, de Défense Distributed, qui est l'association de Cody Wilson, tu peux créer ton propre bloc. Voilà.
C'est l'enfer.
Et qui n'est pas immatriculé du coup.
Donc, non,
qui n'est évidemment pas immatriculé. Et alors, c'est assez génial parce que du coup, Cody Wilson, ce qu'ils se sont dit, bon, c'est sympa de distribuer les codes, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils distribuent les fichiers pour créer soi-même une CNC que tu peux construire chez toi. Donc tu peux construire la CNC qui après servira, si tu veux, à construire ton receveur.
Mais c'est de l'incitation à la violence, en fait.
C'est l'incitation à utiliser son second amendement, si tu veux.
Voilà, c'est tout le débat aux États-Unis. Une arme à feu n'est pas violente en
elle-même. Voilà, un Américain, tu dirais que c'est de l'incitation à se défendre. Ouais. Voilà. Ouais.
Et donc, si vous regardez, il y a plein de documentaires sur YouTube là-dessus. Il y en a un qui a été fait par un journaliste de Wired, qui donc, lui, n'y connaissait pour le coup vraiment rien, et qui a acheté une CNC, et qui a créé lui-même son receiver. Et il le teste en réel, et c'est impressionnant, parce que c'est vraiment, c'est les fameux R15, là. Mm-hmm. C'est des fusils d'assaut qui te tirent du, je sais plus, 20-30 munitions à la minute, et ça marche très très bien. Alors évidemment, c'est fait dans les blocs d'alu, donc c'est pas aussi solide que ça peut l'être si c'est avec du métal plus avancé, mais
pour un truc imprimé à la maison
quand même,
tirer 600 balles avant de connaître les premiers problèmes.
Donc
t'as le temps de tuer des gens avec
carrément, t'as le temps de faire un carnage.
Et donc, on pourrait penser que ça reste de la science-fiction malgré tout, mais non, puisque je crois que c'était il y a 2-3 ans, il y a un mec qui avait des problèmes mentaux qui a tué 5 personnes avec une arme qu'il avait fabriquée lui-même. Petit truc fun, on lui avait retiré ses armes avant, justement à cause de ses problèmes mentaux, il les avait rendues, si tu veux. Et il a réussi à en fabriquer lui-même, et donc à commettre ces meurtres.
Quelle angoisse. Mais c'est fou que ces arguments n'aient pas eu plus de poids au niveau juridique lors d'un procès, en fait.
Bah, je pense que la NRA a beaucoup joué là-dessus.
Mais bien sûr.
De dire, voilà, c'est... parce que du moment que tu mets, ne serait-ce qu'en doute, je pense, le second amendement, Ça, ouais, pour la NRA, c'est pas possible. Ils ont besoin de lutter contre ça. Même si, bah, de toute façon, on voit bien ce qu'ils ont fait dans toutes les tueries qu'il y a eu. Ils soutenaient quoi qu'il arrive. Ils en sont. Leur argument, c'est non, mais pour.
C'est la personne qui est instable, c'est pas la faute des armes.
Exact, c'est pas la faute des armes. Donc, armons les professeurs. C'est le grand thème.
Ils ont une excuse, moi, qui me rend dingue, c'est regarder tous les attentats qu'il y a en France avec les voitures.
Oui, voilà.
C'est pas la faute de la voiture, c'est la faute du type.
Ouais.
Non, mais.
Sauf que si tu prends même si tu compares le nombre de meurtres comme ça par rapport à la population, je pense que les États-Unis sont loin devant, quoi.
C'est même Trump, je crois, qui avait dit carrément que si les gens dans la salle au Bataclan avaient eu des armes, bah, du coup, il avait fait un discours, genre le lendemain du Bataclan, un truc comme ça, assez rapidement.
Et il s'est repris ça dans la gueule après les attaques d'Orlando.
Qui ont tombé pas longtemps plus tard, mais ouais, ça m'avait choqué, moi, ce discours.
Anyway.
Et évidemment, le truc marrant, c'est que Cody Wilson et toute sa petite équipe, en fait, ils soutiennent aussi, ils utilisent l'argument du libre et de l'open source pour défendre aussi leur truc. Donc c'est
Linux open source, pourquoi je peux pas avoir des armes open source?
Exactement. Et donc bon, en tout cas, à partir du 1er août, c'était là où je voulais en venir, on a donc c'est la dernière étape, savoir que ce sera officiellement autorisé, donc évidemment aux États-Unis, mais c'est Internet, donc n'importe qui en France pourra télécharger ces schémas, qui étaient déjà plus ou moins accessibles, mais en tout cas, c'était pas les derniers schémas qui étaient disponibles, parce qu'ils continuent de travailler dessus. Ils ont commencé effectivement par ce fameux Liberator, qui était un flingue tout simple en plastique qui pouvait tirer un ou deux coups. Ouais. Là, ils en sont à des fusils d'assaut et ils distribuent tous les codes, etc. Et le reste, même si en France, effectivement, c'est interdit, c'est toujours la même chose. Ça reste le Resaver qui reste cette base indispensable pour créer l'arme à feu. Le reste, je pense, bon, enfin, essayer enfant, je vais pas le faire, mais je pense que ça va pas être si difficile que ça de trouver
Non, les pièces détachées.
Même en France, quand tu vois que, enfin, je sais pas si vous avez fait un patator quand vous étiez plus jeune.
Oui.
Globalement, une machine à balancer des patates avec de l'air comprimé. Mais c'est considéré qu'une arme de catégorie 3 ou 4, je sais plus, enfin, t'as le droit de le transporter que quand il est démonté. Enfin, c'est un truc assez réglementé parce que ça peut faire très très mal. Bah, quand t'es gamin, tu vois ça, tu peux acheter des tubes, tu le fais, quoi, parce que c'est rigolo et tout. Bah, un gamin qui est con, il va vouloir essayer aussi. Au début, il va se dire, genre, ah, c'est juste pour shooter sur des cadettes. Puis, il va avoir une frustration, un mal-être, une dépression, n'importe quoi. Et il va buter des gens ou se buter. Enfin, c'est complètement con.
Avec des patates.
Enfin, c'est comme les recettes d'explosifs. À l'époque, au début des années 2000, je trouvais ça partout, sur tous les sites. T'allais retrouver le fameux guide de l'anarchiste, etc. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, hein, de là, malheureusement.
Ouais.
Mais
un petit peu de Darknet et puis hop, c'est réglé.
Ouais, exactement. Il y a deux, trois trucs qui sont très intéressants. Il y a un documentaire de 25 minutes qui s'appelait Click, Print, Gun, qui était spécialement sur Cody Wilson, justement. Oui, c'était en 2013, donc, au moment où il y a eu ce fameux débat et où il a été interdit de diffuser ses schémas. C'est un documentaire sur lui qui dure une demi-heure, je crois, et où il raconte ce qu'il fait, et surtout où tu le vois tester ses armes à feu. Il y a aussi la vidéo de Wired, où tu vois donc le mec tester son AR-15, et ça, c'est absolument hallucinant, parce que c'est une arme, quoi. Tu vois pas la différence, honnêtement, avec... tu peux pas... Quand tu vois le truc comme ça, tu peux pas dire une seconde que ça a été fait à la main. Or que le mec avait juste l'imprimante, enfin la CNC, et il a lancé le fichier. Mmh. En une heure, il avait son bloc. Alors après, il y a un peu de montage à faire, etc. Mais c'est...
Une heure,
je crois. Ou peut-être deux ou trois. Enfin, en tout cas, pas plus... Si ça dure une journée, c'est vraiment le maximum. Parce que ça se travaille très facilement, en plus.
Ouais. Pas de l'acier.
Non, c'est pas de l'acier, etc. Mais ça reste assez solide pour pouvoir gérer. Donc c'est la partie qui prend la balle, qui avec leur sorte la refait monter dans le canon et ainsi de suite. Donc voilà. Et sinon, évidemment, le site internet, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est defensedistributed.com, qui est le site internet de Cody Wilson et de son assoce, où ils mettent en ligne tous les schémas et où on vous conseille évidemment pas de le faire.
Bien sûr, n'imprimez pas.
Mais, c'est intéressant d'un point de vue culturel d'aller voir un peu la façon dont ils défendent ça.
Rien que le nom du truc, le fait qu'ils appellent le premier defense, prototype quoi. Liberator.
Oui, bah oui.
Sans dire long sur les intentions du
garçon. Jean-Michel Propagande.
Mais l'impression 3D en plastique a aussi fait beaucoup d'avancées en 5 ans. Donc je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 3-4 ans, ils arrivaient à faire des fusils d'assaut avec du plastique. Enfin, tu pouvais peut-être tirer 100 balles seulement. Putain. Mais voilà,
j'aime bien
100 balles, c'est
seulement.
Beaucoup. Voilà, ouais. C'est beaucoup quand t'es en face du truc. Quoi.
J'espère que ça va pas rebondir négativement sur l'impression 3D parce que pour le coup, ça a permis des progrès dans la médecine, etc., qui sont incroyables.
Oui, mais en fait, ils sont trouvés par rapport à un véritable problème. Et d'ailleurs, le Sénat américain, je crois, avait fait un des débats là-dessus, à savoir est-ce qu'il faut interdire, en tout cas réglementer les imprimantes 3D, comme on réglemente les armes à feu.
La promesse de base est super intéressante.
Ah oui, mais
les détournements sont horribles.
Bah, c'est comme toute technologie. De toute façon, ça dépend de ce que t'en fais.
Ouais,
Mais en l'occurrence, les imprimantes 3D, tu peux pas, ne serait-ce que parce qu'elles peuvent se répliquer elles-mêmes quand t'as une imprimante 3D.
Oui.
Tu peux fabriquer les pièces pour en créer une nouvelle. Mmh. Donc, c'était pas quelque chose qui était gérable. Mais bon, on a, de là à autoriser la distribution de schémas comme ça officiellement, c'était encore une autre étape, et donc le parti du 1er août, ce sera le cas.
Super, oh, ouais. Formidable.
Mais n'est-ce pas ? Quelque chose un peu positif.
Bah, putain, super cool, merci.
Ouais,
bah,
non,
un peu flippant, un peu badant, mais.
Ouais, moi j'aime bien un truc un peu flippant comme ça, de voir un peu, d'avoir une vision d'avenir de ce qui se prépare.
En plus, tu m'as donné un tremplin là pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun avec ce dont on va parler.
Alors avant ça, je vais juste vous rappeler le Print the Legend sur Netflix qui part du coup des imprimantes, enfin le début des impressions 3D. Super chouette parce que ça suit plusieurs boîtes, leur histoire, enfin il y a aussi un côté social assez chouette, enfin socialo Startup Nation, et parle notamment, il y a des petites parties sur ce cher Cody Wilson. Et c'est super
très intéressant,
c'est
ouais,
sympa à regarder, un peu flippant, et quand on voit ce que ça donne, putain, ça fait bader.
Et juste une petite stat aussi, donc j'ai cherché un peu là, en 2017 les États-Unis n'ont connu que 135 jours sans fusillade de masse.
Sans fusillade de masse,
masse.
Ouais, c'est ça,
c'est
masse.
Déjà pas mal,
putain.
C'est vrai que ouais, en gros un jour sur trois t'avais une fusillade,
fusillade. Ouais. Au calme, on apprécie.
Bah okay. Et sur ce,
bon, on va débattre
un peu.
Fais-nous
y péter le débat.
Allons-y.
Je suis C3PO. Relation humain cyborg.
Ce n'est pas un homme, c'est une machine.
Tu veux dire l'intelligence artificielle.
On verra ce qu'on mettra en dessous, soit des genoux hydrauliques, pneumatiques, électroniques.
C'est quoi des genoux électroniques ?
Alors, on va parler un petit peu de transhumanisme. Donc, je vais vous faire une petite définition rapidement, même si je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est.
T'as pas oublié le papapapapa ?
Non, parce qu'écoute, tu entendras qu'il y a une musique qui continue derrière.
C'est bien fait.
N'est-ce pas ? Donc le transhumanisme, c'est un mouvement qui s'intéresse au post-humain. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir après ce qu'on appelle l'homme 1.0 ? Ben non, justement.
Ah non.
La mort dans le transhumanisme n'existe plus, mais on va en parler. Les transhumanistes, ils pensent qu'on doit prendre la question en main et avoir recours à plein de technologies, ce qu'on appelle les NBIC. Est-ce que ça vous parle, les NBIC ?
Les National Basket Internationaux de Cybernétique.
Ouais, ben non. C'est les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives.
Oh, c'était pas loin.
En gros, c'est les quatre outils dont on a besoin pour atteindre le transhumanisme. Et le but étant de modifier via ces technologies l'humain pour arriver à un humain qui serait 2.0. C'est un mouvement qui a pris surtout de l'importance près des pôles technologiques, des GAFA notamment, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, la Silicon Valley et la Chine. À la différence principale que dans la Silicon Valley, il y a encore un petit peu d'éthique. Ce qui n'est pas forcément le cas en Chine, ce qui fait que la Chine évolue beaucoup plus vite, puisqu'ils ont beaucoup moins d'éthique. C'est un fait, hein ? Désolé. Et donc, un des leitmotivs principaux du transhumanisme, c'est d'en finir avec la mort, c'est de libérer en fait, l'humain de ses contraintes biologiques.
Tuant la mort.
C'est ça. Et du coup, j'ai bricolé un petit débat sur 5 questions. Donc, encore une fois, on ne donnera pas une réponse à ce qui va se passer, à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais on va essayer d'y réfléchir. Alors la première, elle est très terre-à-terre, je ne suis pas parti dans la philo directement. C'est une observation que j'ai eue personnellement. Alors la question, je l'ai formulée comme ça, la cosmétique est-elle le pont entre réparation et augmentation ? J'ai un petit exemple pour vous aider, c'est on y voyait mal, on a créé des verres, des monocles, des lunettes. Ces lunettes aujourd'hui, on les choisit, pas avec des marques, des styles, etc. Et ça devient un objet cosmétique. Qui deviendra peut-être par la suite un objet d'augmentation, on en sera peut-être implanté directement. Et j'ai un autre exemple assez parlant, c'est une mannequin qui s'appelle Amy Mullins qui faisait un TED Talk où elle expliquait que, alors il faut savoir que cette mannequin n'a pas de jambes en fait, et elle expliquait qu'à une soirée, une connaissance était jalouse qu'elle puisse changer de taille à loisir parce qu'elle était très grande. Elle lui fait mais t'as grandi ? Elle fait non, j'ai juste mis mes prothèses qui sont un peu plus grandes avec des talons et machin. Et sa collègue était jalouse en fait. Et ça pose une question, c'est est-ce que l'amputation volontaire peut survenir ?
Alors, pour juste un petit rapport aussi à ce qui existe déjà, parce que là, on va parler de trucs un peu en prospectif, mais dans la chirurgie, il y a déjà la différence entre cosmétique et réparateur. Tu peux à la fois, je sais pas, soigner un problème de foie, j'en sais rien, faire une greffe de foie, ou bien faire une chirurgie plastique. Bon, il y a des personnes qui le font parce qu'elles ont des vrais problèmes à régler et d'autres parce qu'elles veulent ressembler à, je sais pas, à Mel Gibson ou
Igor Bogdanov.
Voilà, par exemple.
Et pour le coup, la cosmétique, en fait, en soi, c'est pas du transhumanisme. C'est un pas dans cette direction. Mais le transhumanisme, je rappelle que c'est pas réparer l'humain, comme le fait la chirurgie à la base, par exemple.
C'est l'augmenter.
C'est de l'augmenter, c'est de l'améliorer, c'est d'aller au-delà de l'humain.
Mais est-ce qu'avoir des jambes plus grandes, c'est augmenter l'humain ?
Alors, à ton
en taille, oui.
Attends, mais en festoche, tu vois vachement mieux. Et Tamiel était très bien. Pardon.
Si l'humain est plus grand, s'il est plus rapide. Je rappelle qu'Oscar Pastorius, avec ses prothèses, a battu des coureurs valides.
Ouais, puis il a battu sa
femme
aussi.
Donc il a augmenté.
Oui, mais ça veut pas
être... Cimer.
J'ai pas entendu.
Il a battu sa femme aussi, c'est vrai, mais c'est pas le sujet. Il a augmenté ses performances en tant qu'être humain à l'aide de prothèses. Alors, de là, Pastorius, à la base, avait son handicap. Mais est-ce qu'une personne ne souhaiterait pas se couper les jambes pour pouvoir courir plus vite?
Potentiellement.
C'est un peu au-delà. C'est pas vraiment de l'intégration dans ton propre corps. Ça reste quelque chose d'extérieur, je trouve. Mm. Comme la cosmétique et comme... pour moi, le transhumanisme, c'est vraiment intégrer à l'intérieur de ton corps quelque chose qui va l'augmenter. Après, bon, c'est vrai que se couper les jambes et se les remplacer par des prothèses, c'est encore un tout spécial.
Ouais. Alors, extérieur certes, mais il y a un lien avec toi parce que c'est pas forcément. On peut aussi penser à des prothèses qui seront pas mécaniques parce qu'il y a beaucoup de prothèses qui sont mécaniques, mais des prothèses qui vont te lier avec les nerfs, avec les impulsions nerveuses où tu peux les contrôler.
Ouais, mais là c'est des interfaces, machine-humain et c'est.
On pensera par exemple aux malades de Parkinson où on leur met en fait des pulsions qui sont capables de vibrer de manière à ce que les tremblements soient arrêtés.
C'est nul
en fait. Voilà. Alors est-ce qu'on pourrait considérer ça comme du transhumanisme ou pas? Ça reste une prothèse qui est posée sur eux, qui contient un implant également, mais on parle souvent de ces prothèses là parce que c'est celle qu'on connaît aujourd'hui.
Mais je suis pas certain parce que ça en fait ça augmente pas l'humain, ça le remet si tu veux
ça le répare
voilà,
dans ce cas là on le répare, mais c'est pour ça que je parlais de Pastorius qui avec ses prothèses court plus vite.
Ouais, ça je suis pas tout à fait la même chose parce qu'il a été réparé en quelque sorte, si tu dois vraiment prendre
mais on sait pas s'il courait déjà assez vite avec ses pieds puisqu'on en a jamais
vu parce qu'en fait ce genre de prothèse ça va favoriser le rebond etc. parce que c'est des prothèses qui sont faites pour ouais, c'est des prothèses de course en fait.
Et du coup, on parlait de réparation, tu parlais de quelque chose qui est à l'intérieur du corps. Est-ce que pour toi, le vaccin, c'est du transhumanisme?
Non, je pense pas, non. Parce que c'est, ça te protège. Je vois pas ça comme quelque chose qui va augmenter tes capacités.
Parce que dans le transhumanisme, on parle de vaincre la mort. À la base, l'être humain est sensible à certaines maladies. Lorsqu'on le vaccine, en utilisant cette biotechnologie qu'on a créée, on rend l'humain moins
plus ça dans le domaine de la médecine que dans le domaine du transhumanisme. Quand on parle de transhumanisme, j'imagine plus quelque chose qui va vraiment te permettre d'aller au-delà des limites humaines, si tu veux, et non pas te protéger de maladies ou quoi que ce soit. Après, c'est une définition que chacun peut.
C'est le but d'un débat, comme un
exosquelette qui va te permettre de porter des charges.
Voilà, exactement.
Est-ce qu'une maladie n'est pas une limite humaine?
Alors la maladie est une limite biologique à l'être humain, qu'on peut contrer justement avec des vaccins. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle justement. Après, vous savez qu'on a des opérations des yeux pour retrouver notre vue originale. On n'est pas encore trop capable d'améliorer la vue à proprement parler. Ça viendra sûrement, c'est ça mon souhait.
Si on peut. Les lasers.
Alors laser et pas que. J'ai vu des documentaires ultra intéressants là-dessus et qui du coup touchent au transhumanisme, j'en sais rien. Où en fait quand tu bombardes une. Alors c'est des recherches qui ont été faites et véridiques. Enfin pas véridiques mais.
Continue ta phrase, tu me fais peur là.
Mais tu peux bombarder certaines zones du cerveau avec des impulsions. En fait ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à améliorer les facultés visuelles des personnes qui avaient ça.
C'est un documentaire de 1938.
Non, c'est assez récent. Mais en fait, il y avait ça. Et il parlait aussi des interfaces homme-machine pour les personnes qui étaient amputées depuis longtemps et qui pouvaient, amputées qui n'avaient pas de bras, et qui pouvaient contrôler un bras mécanique uniquement par la pensée. Là, vu que c'est de la recherche, elle avait une machine de 12 tonnes avec une fin vissée au crâne. Oui. Pas pratique dans la vie de tous les jours. Mais elle pouvait attraper une tablette de chocolat, faire des trucs.
Et ça marche vraiment ton truc avec les ondes de
chocolat? En tout cas, alors c'est pas un truc de ouf, mais ils arrivaient à avoir ils devaient reconnaître des images plus ou moins vite et ils avaient un résultat 10 à 15% supérieur. Donc il y a un truc qui fait que quand tu stimules une certaine partie du cerveau, tu peux avoir des retours sur les compétences.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choses incroyables, mais qui ne sont pas encore adaptables à la vie de tous les jours. Ouais. Notamment, tu parles de trucs, c'est un ordi de 12 tonnes, c'est comme AlphaGo, je crois, l'ordinateur d'échecs également, qui est une énorme machine, mais qui est capable de battre un être humain au jeu de Go. Ouais. On est capable de faire ces choses-là, mais elles sont pas encore. Le design ne permet pas encore, en fait, de les adapter.
Ouais, il y a encore quand même des choses comme, par exemple, si tu regardes, il y a eu des prothèses pour les yeux qui ont été créées, qui permettent à des aveugles de naissance de voir. En fait, ils ont connecté avec le nerf optique.
Ouais.
Et donc, c'est une caméra que tu as dans l'œil.
Sérieux.
Ouais. Et qui te permet. Attention, c'est des gros pixels, mais en tout cas, ça permet de redonner à ces personnes qui étaient aveugles de naissance. Un peu de vue. Alors c'est
tu
très peu.
Les formes.
Ouais,
que rien.
Pour quelqu'un qui est aveugle de naissance, c'est fou, quoi.
Bah oui.
Comme les sourds, exactement. Ouais. Et puis il y a aussi cette histoire, les transplantations de cœur. Enfin, les cœurs.
Les pacemakers.
Non, pas les pacemakers.
Le cœur artificiel.
Le cœur artificiel, voilà, qui a été, qui est une grande avancée française.
Qui a été, oui.
Et ils en sont, je sais plus à combien ils en sont, ils en ont fait au moins 4, ils en ont parlé officiellement après.
Ça fonctionne bien, apparemment.
Et sur, oui, et puis surtout, c'est portable. C'est-à-dire que le mec avait un, sur le dos, une sorte de sac à dos qui contenait une partie du mécanisme, mais c'est pas une grosse machine qui te bloque.
Mais là, pour le coup, on est encore dans du réparateur, mais on est dans ce qu'on appelle un cyborg, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Vraiment entre un homme et une machine.
Et là, pour le coup, le biologique est vraiment lié à l'informatique. Et t'as un vrai lien.
Et toutes les limitations dont on parle ne sont que des limitations à court terme, en fait. On parle de la résolution des caméras pour rendre la vue à un aveugle. Ça, c'est dans une dizaine d'années, on n'en parle plus. On les a en 4K, en fait. C'est vraiment à court terme. Donc là, on entre sur le cyborg.
Moi, il y a un truc qui me passionne aussi, que je suis beaucoup, même si c'est entre la science-fiction et l'horreur, c'est la fameuse transplantation de tête. Transplantation de corps, parce que c'est un peu différent.
Il y a
le fameux italien
ou russe. C'est le patient qui est russe.
Non, c'est un italien. En fait, il avait trouvé un patient russe qui devait aller en Chine pour récupérer un corps qui était
comme quoi la mondialisation
voilà du bon. Parce qu'effectivement l'Italie voulait pas de lui et le Russe qui était un mec qui est paralysé par une maladie très grave voulait se faire donc couper la tête et se la faire poser sur un corps chinois a priori puisqu'en Chine ils avaient autorisé ça pour pouvoir retrouver un corps qui était valide quoi.
Ouais. Je te remercie de soutenir le fait que les Chinois ont moins d'éthique et permettent
c'est ça qu'ils ont beaucoup d'exécutions donc ça aide beaucoup à trouver des corps et des
je vais modérer ça disons qu'ils sont curieux
voilà. Ils ont l'esprit plus
dans la limite de la légalité. Ouais. Très bien, je vous propose de passer à la deuxième question, sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Donc on passe du coq à l'âne.
Du coup, on avait bon ou pas ?
On a libéré des informations. Le transhumanisme signe-t-il la fin des religions ? Question donc sur les enjeux théologiques.
Moi, je ne pense pas du tout, parce que la religion est un principe de croyance vraiment purement assez pur en fait. Donc t'as pas besoin d'augmentation de que sais-je, tu crois, point. C'est une question de foi.
Alors attention à ne pas limiter le transhumanisme à un cœur artificiel. Le transhumanisme, dans son développement, ça permet de contrer la mort, on va y revenir, et également de donner, de faire une conception, de créer un être humain à partir de rien.
Ouais, mais justement, le principe de la religion, c'est que Dieu a créé l'homme à son image, blablabla, et ce qui se passe après n'est pas uniquement du fait de Dieu.
Alors attention, j'ai pas parlé de la foi, j'ai parlé de Dieu. On peut avoir la foi en plein de choses, mais le concept de Dieu et de création est remis en question.
Tu peux concevoir que les êtres humains en des temps immémoriaux ont été créés par un dieu et qu'après ils ont fait des choses un peu fofolles.
Ouais, mais sans aller jusqu'au concept de Dieu ou quoi, tu remets tout simplement en cause des gnomes, non, des dogmes. Des gnomes.
Tiens, le Lannister n'existe pas.
Dans le sens où, dans beaucoup de religions, dans les religions monothéistes, t'as déjà pas le droit de fumer pour pas détruire le corps que Dieu. T'as pas le droit de te faire de tatouages pour détruire le corps que Dieu t'a fait. Donc, te faire greffer des trucs incroyables, lutter contre la mort. Te faire mettre un port de clé USB dans le cou ou quoi, je pense que c'est pas trop...
Mais en admettant, parce que là on parle de la religion, qu'est-ce qu'elle penserait du transhumanisme, mais dans la question je pars plutôt du principe que, imaginons que le transhumanisme soit un stade qu'on a atteint, on a atteint l'homme 2.0, dans ce qu'on aurait atteint de l'homme 2.0, on aurait de l'ectogénèse, c'est-à-dire qu'on pourrait concevoir un ovule, concevoir un spermatozoïde, et mettre tout ça in vitro, créer un être humain à partir de rien, sans parents. On n'est pas très très loin de ça. Par exemple, si on a deux donneurs femmes, la seule limite, c'est que le bébé sera forcément une femme. Mais petit à petit, on arrive à l'ectogénèse, 1984, voilà. Et dans le cadre de l'ectogénèse, ça veut dire que l'homme, à partir de rien de ce qu'aurait pu donner Dieu potentiellement, crée la vie.
Et bien, c'est justement parce que pour moi, c'est l'homme qui a créé ça. Et surtout que le principe de la religion, parce que là,
mais c'est pas l'homme de le créer.
Pourquoi ?
Parce que la vie est sacrée.
Ouais, bah alors là, je regarde de ce qu'il y a autour de nous. Dieu n'a pas créé le papier cadeau.
Si.
Pourquoi il y a du papier cadeau ici d'ailleurs ?
Pas la question, parce que je range pas. Bon.
Quand le serpent a donné la pomme à Ève, elle est emballée en fait dans ce type de papier cadeau.
Bah moi, je pense sincèrement que l'homme a besoin de croire en fait. Donc là, on a souvent en tête les religions du livre parce que ce sont les plus présentes, mais il y en a d'autres qui ont déjà des visions très différentes et ça reste de la théologie. Et quoi qu'il se passe, je pense qu'il y a un vrai besoin de rassemblement et de croyance. Ce n'est que mon opinion.
D'autres avis ?
Invisible mic drop. Bim.
Non, je vois pas la religion disparaître ou après. Par contre, une religion basée sur le transhumanisme, c'est quasiment déjà le cas dans la Silicon Valley.
Et oui, transhumanisme est une religion quasiment.
Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire qu'ils y croient. D'ailleurs, c'est qui ? C'est Sergey Brin, je crois, PDG de Google, qui est
un gros porte-parole.
Ouais, qui est un gros porte-parole. Parce qu'entre autres, il sait que dans sa famille, il a des gros problèmes de je sais plus quelle maladie orpheline.
Ouais.
Et qu'il a une boîte à côté.
Calico.
C'est ça qui, donc, je crois, décode les ADN ou tu.
Le but général de la boîte, c'est de vaincre la mort, en fait, ouais, d'augmenter l'espérance de vie. Après, ils le font de plein de manières différentes. Mmh. Ouais.
Et pour le coup, c'est vrai que tu te. Bon, après, moi, je suis pas croyant, mais tu remplaces en quelque sorte Dieu, puisque tu peux tout. Voilà, pour ces personnes qui croient vraiment à fond dans le transhumanisme, au point de se dire que peut-être qu'un jour elles pourront être immortelles, tu dépends seulement de toi-même, tu as créé toi-même l'intégralité de ton.
Après, le but étant pas qu'un transhumaniste ait argumenté envers une personne religieuse de est-ce que Dieu existe ou pas, mais qu'est-ce qui nous reste en fait, qu'est-ce qui nous resterait de la religion dans ce cas-là. Mais de toute façon, on n'ira pas trop plus loin sur ce débat-là, c'était histoire de...
Allez, c'est toujours plaisir.
On ne va pas résoudre la question aujourd'hui.
Bah, d'ailleurs, il y a aussi
le conflit israélo-palestinien. Non, je sais
pas. Il y a aussi la cryonie, c'est une tendance de fond, ça. Oui. J'avais fait un dossier dessus aussi il y a longtemps. C'est le fait de, une fois que tu es mort, de pouvoir se faire conserver toi-même, ouais. Tu te fais cryoniser, voilà, pour éventuellement pouvoir être ressuscité ou guéri une fois que tu seras. Et à tel point qu'il y a.
Hibernatus, quoi.
Ouais,
Salvador Dali.
Futurama.
Mais ça va au-delà de ça, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, donc ils ont des sortes de fermes dans lesquelles ils ont. Ils conservent les têtes ou les corps de façon ad vitam aeternam. Pour pouvoir plus tard éventuellement les ressusciter. Mais il y a des personnes qui sont atteintes de maladies, qui veulent en fait aller au-delà, pas seulement être conservées après leur mort, mais qui veulent qu'on puisse les poser dans une sorte de stase, qu'on puisse les congeler au moment où elles sont encore vivantes, de façon à avoir le maximum de chances.
Oui, il n'y a pas une adolescente qui avait demandé
ouais,
à ça, tout à fait. Qui était en débat contre
ouais,
ses parents
et
là-dessus.
Je ne sais plus si elle a gagné ou pas.
Mais je crois qu'elle a gagné,
ouais, c'est ça, ouais.
Il me semble.
Et donc du coup, c'est vraiment être...
congelé vivant.
Voilà, c'est ça, quasiment. De façon à avoir un maximum de chances de pouvoir être...
J'y reviens, mais c'était le cas de Salvador Dali aussi, hein, qui voulait être congelé vivant, justement, pour qu'on conserve son génie.
Sa moustache.
Il y a aussi un côté, je pense que pour les proches, si tu veux, c'est dire, elle est peut-être pas morte, en fait. Peut-être qu'elle est vivante, et donc c'est...
C'est un espoir qui est fou.
Ouais. Et puis alors, ça palpe, hein, parce que c'est des sociétés qui gagnent de l'argent.
J'en profite pour vous recommander Demolition Man, pour ceux qui l'ont
pas. Oui, bien sûr. Voilà. Un classique.
Merci de ton soutien. Ok, je vous propose de passer au point suivant.
Oui.
Allez. Je peux juste me permettre de faire un point fromage qui est en train de fondre dramatiquement.
Mais on a les mêmes têtes que le fromage,
je pense.
Ouais.
Je vais me sacrifier en prendre deux morceaux.
J'apprécie ton intervention, Yass.
Désolé, on vous mettra une petite photo, mais c'est photo. Ouais, c'est assez dramatique. On souffre pour vous, messieurs dames. En vrai,
le morbier est bon. Un peu fondu, ça.
Ouais, il a chaud, mais il est bon.
Pardon.
Là, on est à la limite du point raclette.
Du coup, désolé pour l'intervention.
Ah ben, je t'en prie. Donc, question numéro 3.
Le fromage fondra-t-il ?
Pourquoi et comment être immortel ? Est-ce que ça vaudrait la peine d'être immortel ? Comment est-ce qu'on pourrait y arriver ?
Moi, j'ai une réponse bêtement.
Tu deviens fou.
Bah, justement, j'ai une réponse bêtement personnelle, mais par curiosité. Par curiosité et optimisme. Parce que un de mes plus grands malheurs, c'est de ne pas pouvoir tout découvrir, tout comprendre, tout maîtriser. C'est très bête, hein, ça ne me ronge pas non plus au jour le jour, étant donné. Mais j'adorerais pouvoir découvrir toutes les langues, tous les arts, tous les sports, tous les arts martiaux, toutes les sciences, et puis les maîtriser, et puis du coup créer d'autres choses. Et parce que ça sera un kiff monstre.
Tu viens de dire que t'as placé tous les arts martiaux, donc t'as un petit fantasme de.
Non, mais tu sais, pas juste en.
De Matrix, quand même.
Par exemple, pour pouvoir tous les connaître et les comparer, mieux les comprendre, voir les choses avec du recul, ça serait fou. Bon, au bout de quelques millions d'années, tu te fais chier, mais au pire, tu crées.
Ça fait sens. Pour la manière de faire, ce qui fait qu'on meurt, c'est la dégénérescence de nos cellules. Il y a plusieurs phénomènes. Je rentrerai pas dans les détails. Je vous laisserai lire là-dessus. Elodie n'est pas là pour nous expliquer le phénomène ce soir, qu'elle connaît très bien. Mais du coup,
tu dis ça parce qu'elle est vieille.
Oh.
Non, Elodie, on déconne.
Tu parles meilleur. Mais en effet, le but serait de stopper ces mécanismes-là. Donc techniquement, encore une fois. C'est faisable. On est à moins d'une centaine d'années d'être technologiquement capable de le faire. Mais est-ce que ça vaut le coup ? C'est là la grande question.
Oui. Bah, ça pose plein de problèmes. Déjà, ne serait-ce qu'en termes de surpopulation.
Oui.
Si tu imagines ce que ça donnerait si plus personne ne mourrait, quoi. Donc, en trois générations, tu seras en train de marcher les uns sur les autres.
Du coup, fatalement, on ferait plus d'enfants non plus.
Ça empêcherait pas ça empêcherait pas la population de vouloir faire des enfants malgré tout.
Ça sera un mélange d'Asimov 1984 et. Et putain, la série anglaise, très sympathique.
Black Mirror, je sais pas.
Non, merde, série anglaise avec une BD là.
Ah oui,
Oui.
Je vois ce que tu veux. Je vois ce que tu veux.
Très bien.
Bon. Non, mais bon, ça serait quelque chose, j'imagine que ce serait quelque chose qui serait réservé une fois de plus aux très très riches, quoi.
Mmh. Oui, ouais,
forcément. Ce serait pas.
C'est un des plus gros problèmes de toutes ces théories transhumanistes, c'est les inégalités sociales.
C'est pour ça que ceux qui, vraiment, qui bossent le plus dessus, qui y croient le plus, c'est dans la Silicon Valley, c'est souvent les personnes qui sont.
Ils ont un peu de sous-sous.
Ça sera peut-être remboursé par la Sécu, qui sait.
Dans les SF, c'est très souvent abordé, et effectivement, c'est un des plus faciles à citer, un des seuls que je connaisse. Mais Asimov, enfin, évoquer la question au moment où, c'est pas un gros spoil, mais il y a un moment dans un des bouquins où il y a, mettons, un super ordinateur qui du coup est tellement loin de l'intelligence humaine qui va régir toute le... Oui, régir, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va dire toute l'existence sur Terre, en fait. Il va dire combien de personnes il doit y avoir à tel endroit, qu'est-ce qu'ils doivent cultiver comme ressources, qu'est-ce qu'ils doivent manger pour que leur bonheur soit optimal. Donc c'est que s'il y a trop de population, ça va baisser.
Alors là, on se rapproche plus de la singularité que de notre sujet de transhumanisme. Oui, oui. On va peut-être pas parler de la singularité aujourd'hui parce que ça étendrait un peu trop le sujet.
Pardon.
Ce qui est intéressant par rapport à ce débat d'immortalité, c'est que il y a des sondages qui ont été faits à ce niveau-là, et la réponse qui ressortait le plus, c'était pas que lorsque les gens ont leur posé la question, c'était pas que eux voulaient être immortels, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre leurs êtres chers. Donc
bah,
ils voudraient offrir l'immortalité, mais ouais. Pas l'avoir ouais. Pour eux.
Tu veux dire que je suis égoïste ?
Oui.
Mais non, parce que. Être immortel, ça veut aussi vouloir dire effectivement perdre tous les gens que tu connais, et te retrouver seul au bout d'un moment. Mmh. On va pas parler d'Highlander, ça va un peu long.
Mais c'est vrai, mais il devait se faire chier.
Bah ouais, ouais.
Et après, t'as la flemme de te faire des nouveaux copains, parce que tu sais que tu vas les perdre.
Et donc, ce qui est intéressant aussi sur ce point d'immortalité, on parlait tout à l'heure de la série Altered Carbon qui traite un peu de ça. Mmh. C'est qu'un autre point duquel on n'est pas proche encore, mais qui est une piste qui est explorée activement, c'est que télécharger la conscience humaine, c'est un but en soi, c'est-à-dire être capable de prendre la conscience d'un être humain et de la recomposer de manière informatique pour potentiellement la transvaser dans une autre enveloppe derrière, mais surtout qu'elle reste vivante de manière informatique.
C'est le fameux débat de l'âme, savoir si on le copie totalement, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est juste une copie de toi ?
Qui est traité dans Altered Carbon, effectivement, oui. Avec la virtualisation de l'être humain. Et on en avait parlé dans Les Enfers, à la toute fin de mon sujet sur Les Enfers, où quand tu tortures une conscience humaine virtuelle, est-ce que c'est de la torture ou pas ?
En tout cas, il faut savoir que c'est un projet qui a été mené par une boîte qui s'appelait le projet Blue Brain aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est traité par deux sociétés. Donc, on a aux États-Unis le Brain Activity Map Project et en Europe, on a le projet Human Brain, qui sont deux projets qui travaillent justement au fait de télécharger la conscience de l'être humain. De Hicham, qu'est-ce que tu fais ?
Il fait plus frais.
Ah, Hicham est allé se terrer là où il fait plus frais. Très bien.
Après après ça va être un spoiler, donc on va pas en parler.
Ah, très bien, parce qu'en plus j'ai pas fini de regarder.
Ah oui,
oui, voilà, ouais. Voilà, tiens toi. Voilà.
Ouais, on vous la conseille, elle est sortie il y a pas très très longtemps en plus, il me semble. Il y a 4 mois.
Alors, de laquelle on parle ?
Altered Carbon.
Ah d'accord, je parlais d'autre chose.
Ah pardon.
Okay. Altered Carbon, c'est vachement bien, moi j'ai bien aimé.
Ouais, aussi. Et bien. En plus, un petit côté pop léger et très chouette.
Très bien. Quatrième question, courage, on envoie le bout.
Ouais,
alors celle-là, c'est, je pense, une des plus intéressantes, on va dire. Le transhumanisme, est-ce que fatalement ça deviendra un eugénisme ? Mmh. Est-ce que la question est claire pour tout le monde ?
Ouais.
Oui.
Mais je pense que oui. Hein.
Mmh. Alors, faut savoir que typiquement aujourd'hui, on peut séquencer facilement un ADN. On peut lire l'ADN, notamment par rapport à une femme enceinte, pour savoir quels sont les gènes de l'enfant, et donc éradiquer des maladies.
Ouais.
Par l'avortement, notamment c'est le cas de la trisomie 21 qui a énormément réduit en fait. On a quasiment aujourd'hui supprimé la trisomie 21. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est difficile à dire.
Grande question.
Mais surtout, est-ce que c'est un eugénisme ? C'est-à-dire que de choisir qu'un enfant naisse ou pas parce qu'il a une maladie à choisir la couleur de ses yeux et la couleur de ses cheveux et machin.
Ouais, t'es plus très loin quoi.
La frontière est fine.
Je vois pas ça comme du transhumanisme en tant que tel en fait.
Le fait de choisir la génétique
pour moi on reste dans la biologie, on reste dans le fait de
ça c'est de l'eugénisme, mais pour moi justement s'il y a transhumanisme je pense qu'il y aura eugénisme parce qu'on va tellement, enfin il y a la notion de contrôle fric, on va se dire
oui non, mais de toute façon tu vas vers cette tendance, à savoir que si tu veux ne jamais être malade, si tu veux avoir des personnes qui sont parfaites, forcément tu vas tomber sur le fait de sélectionner avant la naissance.
Et puis en plus, il y a un truc, je ne sais pas si tu veux l'aborder après, mais je pense à quelque chose, c'est que là, on parle de transhumanisme et d'eugénisme, donc potentiellement éradiquer ce qu'on considère comme biologiquement
inférieur.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer un asservissement des biologiquement inférieurs.
Ça faisait partie du point, c'est-à-dire voilà. Que quelle place y aurait-il pour un humain 1.0 dans un monde où il y aurait de plus en plus d'humains 2.0?
Bah même avec un 2.0, imaginons que tout le monde ait une puce et regarde ton identité biologique, si on considère que biologiquement t'es une sous-merde, et bah tu seras au service des gens qui sont, on va dire, plus résistants biologiquement, et ça pourrait être une société,
de la jungle.
Ouais, une société bien, chum.
Alors mais... pour moi, dans cette définition-là, tu serais carrément pas né, en fait.
Bah, ce que je me dis, c'est que pas forcément, justement.
Peut-être c'est la, c'est la période vouloir... de transition, si tu veux, entre ouais, le voilà. Moment où tout le monde.
Peut-être qu'ils vont vouloir de la main-d'œuvre pas chère et pas bosser, et laisser ceux qui ont une biologie pourrie bosser. Ou sinon, on vous tue avec la puce. Bim. Voilà. J'ai des idées pourries, mais je vous
dis quelqu'un possible. De bien, normalement. C'est possible. Et c'est pas un sujet tout rose, hein. Très bien. On va, parce que quand même, je commence à prendre beaucoup de temps. Je voulais passer sur le dernier point que je trouvais le plus intéressant, c'est comment s'y préparer à l'avènement de ces technologies, de ces choses qui vont arriver, en fait.
Le suicide.
J'avais plusieurs axes, à savoir l'école, le travail, la politique et la morale. Notamment, à l'école, l'idée que j'avais en tête, c'est à l'heure qu'il est, j'ai pris l'exemple du métier de radiologue. Aujourd'hui, un radiologue, c'est un métier qui est très bien payé. Et pourtant, une machine est capable d'effectuer le travail d'un radiologue 300 fois plus vite et mieux qu'un radiologue humain. Et c'est le cas pour pas mal de métiers différents. Et encore aujourd'hui, ça va, mais d'ici quelques dizaines d'années, ce sont des métiers qui vont disparaître.
Tous les métiers d'analyse. Radiologue, c'est un bullshit job, en fait.
Pardon ?
Radiologue, c'est un bullshit job, en fait.
Ça le deviendra.
Alors, c'est là que je vous invite à aller regarder sur YouTube une conférence qui s'appelle Designer cherche IA empathique, qui est très sympathique. Et là, du coup, ça traite plus du principe d'IA que du principe d'augmentation. Je ne sais pas si c'est proche ou pas. Mais il disait, en fait, voilà, il y a des IA qui arrivent, qui vont automatiser des choses, qui vont pouvoir, entre guillemets, qui ne se voit pas l'audio, mais faire le travail de designer. Donc, est-ce que les designers vont perdre leur travail? Parce qu'on peut générer des interfaces, les plus logiques, etc. Il disait pas forcément. Je vous invite à regarder cette présentation parce qu'elle est vraiment très, très chouette. Donc, je vais pas vous la spoiler. Mais le combat de beaucoup de pro-IA, c'est que l'IA doit servir à libérer du temps aux êtres humains pour réfléchir aux vrais problèmes, en fait. Donc, l'IA va permettre d'effectuer des tâches et l'augmentation aussi, pardon, potentiellement aussi, pour justement, en fait, l'intérêt du radiologue, c'est qu'il va pouvoir passer outre les données qu'il reçoit et réfléchir à d'autres choses, etc.
Tu viens de me donner une transition toute trouvée, parce que le deuxième point, c'était la politique. Et libérer du temps, c'est un gros problème, en fait, pour beaucoup de monde, puisqu'on en a déjà parlé, il me semble, mais idéalement, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, je suis désolé, on devrait travailler pas plus de 15 heures, en fait, par semaine. Et au niveau politique, on a des politiques qui sont pas du tout dans cette optique-là, de travailler en commun avec l'intelligence artificielle, avec ce genre de technologie, pour changer la condition de l'être humain. Or, ça devrait être le cas, si on veut s'en sortir. Et donc, politiquement, ce que j'ai noté moi personnellement, c'est qu'il faudrait envisager de réorienter son vote politique vers des représentants qui comprennent un petit peu ce qui se passe dans les enjeux technologiques. Parce que là, on a encore...
C'est mal parti.
Bah, du coup, bah oui. On va voter pour personne.
Parce que là, on sort un petit peu du clivage droite-gauche. En ce moment, on sent que ça commence à se barrer. Mais pour moi, dans le futur, on aura une opposition entre des bioconservateurs et des transhumanismes. Et des transhumanistes, pardon. Je pense que ce sera le spectre politique dans 50, 60, 70 ans.
Comme dans le futur.
Typiquement, oui, mais ça me paraît réaliste quand on voit les enjeux qu'il y a aujourd'hui.
Non, mais bien sûr, mais ils ont eu beaucoup de très bonnes idées, et encore une fois, c'est pas du transhumanisme, c'est plutôt le rapport homme-robot. Je conseille mille fois le cycle des robots d'Asimov, qui, moi, m'a beaucoup surpris. J'avais un a priori négatif à la base, mais j'ai adoré, parce qu'il y a une énorme composante socio dans le bouquin, et le rapport entre l'humain, la machine, etc.
Parce que ça pose le problème de la prise de décision par des robots, savoir perdre une partie de ta prise de décision et la laisser à une intelligence artificielle qui est peut-être plus intelligente que toi, qui va réussir à mieux régler les problèmes que toi, mais tu perds le contrôle dessus. Et c'est toute la question sur ce type de problème, quoi.
Et puis il y a une question d'ego aussi, de se dire,
bah,
putain...
Oui, évidemment.
Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voulait caler avant la fin de ce débat?
C'est bon, j'ai tout dit.
C'est quoi qui fait frais?
Ouais, hein.
Je suis très content que tu t'intéresses à ce genre de sujets qui vont définir ton avenir. J'espère que tu ne comptes pas faire des gosses, enfoiré. Donc, juste pour terminer, à lire trois petits bouquins que j'avais du coup lu récemment pour développer un petit peu ce débat-là, qui sont intéressants. Il y en a un qui est très très accessible, qui s'appelle « Le transhumanisme en 12 questions », qui est écrit par Laurent Alexandre et Jean-Michel Bernier, et qui est en fait un débat entre un chercheur et un philosophe sur le sujet. Donc chaque question est traitée par les deux. On a ensuite « L'humain augmenté » de Edward Kleinpeter du CNRS. Et pour terminer, demain, les postes humains, qui est pour le coup vraiment philo-sociaux à fond, de Jean-Michel Bernier, du coup, qui traite plutôt des questions philosophiques derrière. Donc là, avec ces trois bouquins, vous avez au moins un spectre scientifique, philosophique et une confrontation des deux. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu un peu général de tout ça.
Cool.
Voilà.
Merci.
Merci.
Bah merci, top. Et vous voyez qu'il y a des pures préparations de sujets quand même. Hein.
Ouais.
Pas mal de sources, de bouquins.
Ah ouais, j'ai écrit 5 questions. C'était.
Non, ouais, c'est
la recherche qui compte.
Exactement. C'est vrai. L'illusion de recherche, en tout cas. Non, mais en plus, t'as donné des bonnes sources, c'est chouette. Et puis, bah, en plus, on teste des nouveaux formats comme ça, donc c'est parfait.
Tout à fait.
Allez, du coup, je propose de pas vous faire patienter dans ce four
oui.
Studio.
Allons-y.
Alors, vous êtes prêts? C'est l'heure du diplomate à l'anglaise.
Mais attendez, vous êtes interprète ou diplomate?
C'est vraiment le traditionnel diplomate à l'anglaise?
Absolument.
J'ai obtenu l'immunité du procureur.
L'immunité, c'était ta récompense.
Alors, comme vous l'avez compris, on va parler de diplomate, de diplomatie et d'immunité diplomatique. Alors, je vais essayer de ne pas passer trop de temps parce que là, on fond comme ce fromage qui,
comme le Morbier.
Qui brille de mille feux. Alors déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un diplomate?
Quelqu'un qui a une plaque d'immatriculation verte.
Pas que.
C'est quelqu'un qui va négocier quelque chose pour les intérêts soit d'un pays, soit d'une entreprise.
Voilà. Pour les relations des deux pays en
voilà.
Même temps.
Relations et entre...
Moi, j'ai fait plus simple. C'est quelqu'un qui exerce la diplomatie. Voilà,
c'est pas mal.
Ah, ça me fait plaisir.
Allez, on ferme, tout le monde dehors.
Ah bah, je fais général, c'est la vulgarisation. Donc, ce que j'entends par diplomatie, c'est donc politique, interaction avec d'autres pays. Ça peut avoir bien d'autres aspects. Et donc, pour faire ça correctement, je parle vraiment de la diplomatie politique inter-État. Donc, l'État va engager des personnes avec une bonne formation politique, premièrement, mais également une étude très poussée de culture étrangère, et donc pas uniquement la langue. C'est vraiment quelqu'un qui doit connaître en profondeur l'autre culture.
Ça, c'est la théorie.
Oui.
Alors, quand j'ai vu une nomination de Trump sur certains diplomates, c'était chaud, quoi.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses que je vais citer où ça sera de la théorie.
Oui.
Bien d'accord. Donc, il peut y avoir des spécialistes de l'Espagne, d'Amérique du Sud, du Groenland. Enfin, chacun va avoir sa petite spécialité.
De la Flavonie.
En toute logique. La Flavonie, mais bien sûr, fier d'être Flavlon. Voilà, pour les belles références. Donc, à quoi vont servir ces connaissances, encore en théorie? Donc, déjà, à premièrement éclairer son pays sur la lecture des événements qui vont se dérouler à l'étranger et ou à donner un avis d'expert sur une décision à prendre, et aussi à représenter son État dans son propre pays ou à l'étranger. Donc, ça, c'est une notion qui est super importante. C'est que les diplomates, c'est une personnification de l'État. Il va le représenter, il porte la voix de l'État, il parle en son nom et il reçoit les messages en son nom. Et ça, c'est super important.
Et dangereux.
Dangereux, non, pour lui, oui, pour sa vie. Mais sinon, ça, en l'occurrence, c'est un gros poids porté sur les épaules. Donc, ce truc-là. Donc, dans un autre pays, donc quand un diplomate va travailler dans un autre pays, il va avoir trois grands types de représentations de l'État. Est-ce que vous les connaissez d'ailleurs?
Non, aucune idée.
Vous en avez forcément entendu au moins deux.
Ça répète ta question.
Attends, genre l'ambassadeur, le consul?
Oui, oh putain, elle est forte.
Et le troisième, je ne sais pas.
Le troisième, c'est bête comme chou.
Les affaires étrangères?
Non, moi je parle de délégation diplomatique.
Ah oui.
Pour une mission particulière. Okay. Donc le consulat, en fait, c'est l'incarnation de l'administration publique dans leur pays pour les expatriés. Donc, alors là, on va parler de beaucoup de pays, diplomates, etc. On va distinguer le pays qu'on va appeler, on va dire, fournisseur. Disons ça comme ça. Donc, c'est celui que le diplomate va représenter et le pays hôte qui va recevoir le diplomate.
Okay. Fournisseur et hôte. Okay.
Voilà. Donc, le consulat, c'est, on va dire, un comptoir administratif dans un pays hôte pour les expatriés. Donc, c'est dans un consulat qu'on peut faire des démarches administratives classiques, donc livret de famille, passeport, etc. C'est une façon de ne pas retourner à Paris quand on est en pleine Russie, quand on a des démarches à faire, quoi. Donc, il y a l'ambassade. Là, c'est un peu différent. Bon, déjà, ouais, petite précision pour le consulat, il peut y en avoir plusieurs par pays.
Ouais.
Pour l'ambassade, donc c'est la représentation.
Dans les grandes villes, généralement.
Oui, voilà.
Pas forcément, et un consulat algérien à Besançon.
Très bien, Franche-Comté.
Besançon, t'emmerdes.
Donc l'ambassade, c'est la représentation officielle d'un pays dans un autre pays. Donc là, il n'y en a qu'une seule par pays hôte. Enfin, une seule pour chaque pays par pays hôte. Il y a beaucoup de pays, donc il faut suivre. Donc les ambassades ne sont pas soumises aux lois de leur pays hôte. Et ça, c'est super important pour une raison très simple. C'est que l'ambassade...
C'est un territoire du pays.
Voilà, ouais. Exactement. Donc ça veut dire qu'un pays hôte ne peut pas interagir comme il veut avec une ambassade.
Voilà.
d'où Julien Assange qui est bloqué dans l'ambassade du Uruguay depuis plus pourtant longtemps. A priori, ils ont décidé de le virer. C'est...
Ouais, bah c'était.
Ils vont le mettre où du coup?
Bah, ils vont le balancer aux Anglais. Oh, ils ont trop marpé la connexion internet
c'est
pour lui.
C'est pas les Suédois qui devaient le gauler?
Alors non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Angleterre qui veut l'envoyer en Suède et la Suède allait probablement le renvoyer pour son histoire de. Attends, c'était quoi? C'était viol par surprise aux États-Unis. États-Unis, Guantanamo, puis après il est resté là a priori.
Eh bah, allez, salut. Exactement mon exemple. Donc ces principes normalement sont sacralisés. Donc on peut absolument pas. Enfin, un pays hôte ne peut pas pénétrer sans son autorisation du pays qui de l'ambassade dans celle-ci sans son autorisation, parce que ça serait soit une énorme faute diplomatique, mais vraiment c'est absolument un droit à ne pas outrepasser. Ouais, soit une déclaration de guerre dans le pire des cas. Donc il y a quelques cas qui font qu'ils peuvent quand il y a un danger de mort, un incendie, un truc comme ça, mais c'est vraiment absolument respecté. Donc le cas de Julien Assange qui est planqué depuis 6 ans dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni.
Ah, c'est l'Équateur. Ouais.
Alors qu'il est poursuivi en justice, mais donc voilà, il n'a pas été délogé jusque-là.
Quel bordel!
Ou sinon, il y a un truc qui est beaucoup plus simple, c'est délégation diplomatique pour des raisons différentes. C'est une mission vraiment particulière avec un temps donné pour un échange scientifique, industriel, économique. Enfin,
des intérimaires de la diplomatie.
Bah, c'est juste qu'ils sont pas, ils ont pas un point fixe. On leur dit, tiens, il y a une mission à mener pendant 3 mois là-bas, et puis il y va, quoi. Donc, dans tous les cas, la représentation de l'État est très très forte. Et la mission des diplomates peut être assez diverse. Ça peut être soit dans des cas très officiels, genre bah, des réunions, des machins et tout, ou plus officieux, dans. Genre la machine à café dans les couloirs. Ouais.
Sorte de station-service pour espions, quoi.
Aussi. Mais il y a un point qui est important, et encore une fois, en théorie, avec des guillemets radiophoniques, c'est que ils ont plein de missions à faire, donc dans des cadres officiels, officieux, dans des soirées, dans des couloirs, la machine à café, mais ils doivent toujours, toujours rester dans la légalité. Ils sont soumis à la légalité, les diplomates, en toute logique.
En théorie.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve intéressant, en tout cas, c'est la représentation de l'État, pardon. Donc, je prends un exemple. Si, par exemple, le ministre des Affaires étrangères suédois invite l'ambassadeur japonais à dîner dans sa maison après un tsunami ravageur, par exemple, voilà, c'est un scénario. Ouais. Bah, en fait, ça sera une façon de dire on est avec vous, la Suède fait des petites tapes dans le dos du Japon, on est vos potes, et voilà. En fait, c'est très, très politique. De la même façon, si un ambassadeur refuse de recevoir un autre consul ou un autre ministre, c'est un signe très fort d'affront. Enfin, c'est vraiment un affront, et c'est un signe de...
C'est pour ça que quand ils expulsent les diplomates d'un pays à l'autre, comme ce qu'il y a eu entre l'Angleterre et la Russie, c'est un signe important.
Ouais. Ouais. Ah oui, mais complètement. C'est une façon... Enfin, ça représente l'État, donc c'est comme mettre un coup de l'État.
Ouais, c'est ça.
Après, il y a l'État aussi qui joue son rôle là-dedans. C'est pas juste le diplomate. Oh, oui, j'aime pas ça, ouais. La fille du...
Non, mais comme je disais, il porte la voix de l'État. Ouais, donc l'État lui dit quoi dire.
C'est ça.
Mais après, ça peut partir... Enfin, je sais pas, mais parfois c'est un peu plus personnel. Par exemple, c'était pas l'ambassadeur français au Vatican qui, ça a été révélé il y a quelques années qu'il était homosexuel et du coup le Vatican n'en voulait plus en tant qu'ambassadeur.
Ouais, c'est quand même un grave affront de la part du Vatican de révoquer ce genre de choses, parce que c'est une représentation de l'État. Ce diplomate a été approuvé par l'État, donc refuser le diplomate, c'est refuser décision.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair.
Donc très rapidement, ces diplomates, ils vont accéder à des informations très sensibles, donc ça va être des personnes très sensibles. Après, on arrive sur l'immunité diplomatique. Qu'est-ce que c'est? Donc l'immunité diplomatique, c'est une immunité partielle ou totale vis-à-vis de la loi des pays hôtes pour les diplomates quand ils sont dans ces pays. Mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Donc de base, il s'agit principalement de protéger les diplomates pour qu'ils puissent travailler dans des conditions normales, en fait, pour qu'ils puissent pas être emmerdés par des,
que le pays hôte en profite pas pour
par mauvaise foi,
pour le persécuter.
Exactement. Ouais. Il y a une des idées également, c'est d'éviter de faire porter le poids de la tension entre deux pays sur les seules épaules d'êtres humains, parce qu'il faut pas oublier que c'est des êtres humains et qu'il peut y avoir des tensions très grosses entre les pays, et que un être humain, ça se brise facilement, ça se torture, ça se... Il peut y avoir...
Je te trouve très sombre, c'est aujourd'hui.
Mais mine de rien, ils ont un rôle super important. Et donc, quand il y a deux États qui se brouillent, t'imagines que s'il n'y avait pas l'immunité diplomatique, les diplomates, ils fouetteraient et il faudrait galérer pour trouver des gens déjà motivés pour faire ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils soient en sécurité, leur famille également. Et en plus, mine de rien, quand il y a des tensions entre deux pays, qui de mieux placé que les diplomates pour arranger la situation? Ils sont là pour... créer la bonne entente entre les pays. Donc si tu les mets en danger, t'as peu de chances d'améliorer la situation.
Pas forcément. Si je peux...
Vas-y, dis-moi tout.
Par exemple, très récemment, l'ambassade des États-Unis en Israël, ils ont changé de place. C'est pas pour faire plaisir à tout le monde, quoi.
Oui, c'était un signe de politique extérieure fort par rapport au reste du monde.
Oui. Et donc
non.
Moi, je parle de... non, mais je parle de la sécurité des diplomates. D'accord. S'il n'y a rien qui assure leur sécurité, non seulement ils vont avoir peur de travailler, et en plus, s'ils se font dégager alors que c'est la merde, bah, ils sont bien placés pour faire discuter les deux États, qui représentent l'État sur place. Donc ça évite les coups de téléphone incessants. Il y a une cité supplémentaire, c'est... je vérifie. Oui, voilà, c'est de... que les pays, on l'a déjà évoqué, mais qu'ils puissent pas faire pression, c'est ce que tu disais, Captain, sur les diplomates, parce que bah, un diplomate, tu peux facilement lui faire peur, il a un poids énorme sur les épaules, et donc le but, c'est de le protéger quand il y a des négociations, ce genre de choses. Et puis en plus, quand il y a des négociations, l'être humain a un poids énorme dans la balance, donc les États vont très souvent protéger leurs ressortissants, parce que c'est très mal vu, parce que c'est un poids politique énorme. Si on voit qu'un État abandonne ses propres troupes, non seulement il va avoir du mal à recruter, mais en plus la population va moins avoir confiance, etc. Donc souvent les États vont déployer des moyens énormes pour sauver des êtres humains. Donc là, je vous invite notamment à regarder le Bureau des Légendes, où il y a quelques petites histoires dans ce goût-là, notamment pour les agents spéciaux. D'autant plus pour ces agents qui, comme je le disais juste avant, ont des informations ultra sensibles. Le statut d'immunité diplomatique, en fait, il a été mis en place, l'origine du cadre actuel et les statuts des diplomates, il vient de ce qu'on appelle la Convention de Vienne. Donc c'est une convention qui a été éditée pour la première fois en 1961, et il y a eu des ajouts qui ont été faits en 1963. Et en fait, c'est une suite d'articles, donc il y en a 53 dans l'édition de 2014, je n'ai pas trouvé de plus récente.
Tu peux nous les lire tous ?
Non, mais j'en ai lu pas mal, alors... Justement, j'en ai lu pas mal, et c'est un document qui fait juste une vingtaine de pages, qui est dispo sur Internet. Donc si vous voulez y aller, c'est intéressant pour comprendre comment ça marche. C'est globalement intelligible, ça va. Et il va traiter du cadre des missions diplomatiques, du périmètre de chaque type de personnel diplomatique, des engagements entre les pays hôtes et le personnel diplomatique. Donc par exemple, même en cas de guerre, un pays hôte qui a signé cette convention s'engage à fournir un moyen d'extradition pour les diplomates pour qu'ils puissent rentrer en sécurité.
Soit pas coincé dans l'ambassade.
Voilà, donc ça aussi c'est important pour...
Pendant 6 ans.
Ouais, mais...
Parce que c'est aussi l'histoire du droit d'asile. Quand tu rentres dans une ambassade, tu peux demander le droit d'asile.
Ouais.
Ce qui est le cas d'Assange.
Toujours rêvé de rentrer dans un truc en ouvrant la porte en claquant et en criant droit d'asile.
Ouais. Alors ça dépend où tu vas, tu risques d'être...
À Notre-Dame, c'est ça l'avant.
Voilà.
Donc comme je disais, le document est disponible et c'est pas très long, pas trop galère à comprendre, et ça peut être cool. À l'heure actuelle, il y a 196 pays qui ont signé cette convention et ils s'engagent à, ce qui est intéressant, à respecter tout ou partie. Donc il y en a certains
Ils sont pas obligés de tout respecter.
Ouais, certains ont émis des réserves ou des objections sur certaines parties, et la France fait partie de ces pays-là.
Ah ouais.
Ouais. Donc sur le document, on voit qui accepte totalement, qui accepte avec réserve, qui fait des objections. J'ai pas trouvé sur quoi la France avait émis des réserves. Mais
c'est pas sur un article en particulier ou...
Non, on voit juste la liste des signataires et si objection ou non. En tout cas, je vous avoue que j'ai pas cherché les objections.
Oui, non, ouais.
Et alors justement, on va pouvoir... Alors donc, que couvre l'immunité diplomatique ? Pardon, je regardais mes notes, désolé. Je vais en parler rapidement. Donc, que couvre l'immunité diplomatique ? Est-ce que c'est open bar ou pas ? Genre, est-ce que tu fais ce que tu veux ? Alors déjà, il n'y a pas de droit de perquisition ou de consultation des locaux diplomatiques, consulats, ambassades, etc. Des correspondances officielles, des véhicules de fonction, de bien d'autres choses.
La fameuse valise diplomatique aussi ?
Voilà, bah, j'y viens, exactement. Donc le cas particulier de la valise diplomatique, donc c'est une valise qui a un objectif précis, elle doit passer d'une personne à l'autre dans le cadre d'une mission. Tout ça doit être bien défini, identifié par des personnes autorisées, etc. Et cette valise, en fait, elle peut passer les douanes sans fouille, sans rayon X.
C'est comme ça qu'il y avait de l'alcool et du porc en Arabie Saoudite.
Et du fromage dans pas mal de pays aussi, genre aux États-Unis.
Elle peut passer sans rayon... plein de coke, etc. Ouais. Plein de choses. Mais donc, elle peut passer sans rayon X, sans douane, etc. À moins qu'il y ait de très, très, très forts soupçons du fait qu'elle contienne des choses qui ne concernent pas la mission. Donc... du porc, potentiellement, si ça ne concerne pas forcément la mission. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de missions sur le porc, enfin des missions diplomatiques.
Non, pas en Arabie, en tout cas.
Voilà, ça peut être des trafics, trafic de drogue, etc. Par contre, il faut venir avec des bonnes preuves, parce que pour qu'un pays autorise ça, il faut venir armé.
On parle de valise, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, généralement, s'il y a des gros sacs aussi, genre des sacs postaux, c'est pas forcément...
Oui, c'est pas...
C'est pas limité en taille, ni en... Voilà.
Ça peut pas être un conteneur non plus.
Ils font pas comme quand tu vas embarquer dans l'avion, ils prennent pas la mesure de ton bagage.
Non, pas là, je pense que t'es un peu tranquille.
Ouais.
Et alors, vis-à-vis des crimes et des délits, parce qu'en fait, avant de faire ce sujet, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire et pourquoi il y en a qui déconnaient et pourquoi c'était pas plus le zbeul pour d'autres. Donc il y a une petite injustice à ce niveau-là. Si on prend le cadre des consuls, des ambassadeurs plus leur famille, toujours leur famille avec, pardon, donc il y a toujours leur famille avec. Eux, c'est impossible, enfin, ils peuvent pas être arrêtés ou détenus, donc il n'y a pas de garde à vue possible, rien. Donc s'ils font un crime, un délit, n'importe quoi, il peut rien leur arriver, ils repartent tranquilles. Pour le personnel administratif et technique des ambassades, plus leur famille, donc c'est pareil que pour les ambassadeurs et les consuls. Quand on dit personnel technique, ça peut être un administrateur système, ça peut être à peu près n'importe quoi.
Ouais, n'importe qui vient du pays.
Un homme de ménage, ouais, ça peut être vraiment.
Je me permettrai une virgule de vraie vie, mais j'ai eu l'occasion de connaître plusieurs enfants de diplomates. Ils étaient insupportables.
Mais ouais, parce qu'ils étaient sûrs de ne pas être arrêtés.
C'est ça. Vraiment, sûrement les pires personnes que j'ai rencontrées de ma vie.
On leur passe pas le bonjour. Et par contre, pour les fonctionnaires du consulat, eux, ils se font bien avoir, puisque eux, ils peuvent être arrêtés ou détenus s'il s'agit d'un crime grave. Bon, ils se font bien avoir en vrai, non, parce qu'ils ont juste à respecter la loi, quoi. Donc ça va. À qui ça s'applique? Donc bah, déjà aux diplomates, aux consuls, aux ambassadeurs, aussi au personnel administratif et technique, comme on en a parlé, et à leurs familles proches. Donc ça fait pas mal de monde, mine de rien, et c'est pour ça qu'il y a souvent des dérives. Ce qui est important, c'est que cette immunité, elle s'applique pas qu'aux diplomates qui sont... Enfin, elle ne s'applique qu'aux diplomates qui sont détachés dans un pays hôte pour une mission. Donc ils peuvent pas faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. Donc, par exemple, l'affaire Strauss-Kahn, il a essayé de faire valoir son unité diplomatique, il était pas du tout là-bas pour une mission, et bah il s'est fait...
Tu vas en vacances dans un autre pays, t'es niqué, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est
et
pas...
Tu peux mettre ton pénis dans une valise, non.
Bah tu, si tu le fais chez toi, tu peux.
Si tu t'envoies dans une valise diplomatique.
Ah ouais, mais faut pouvoir avoir son identité, donc faut qu'il y ait quelqu'un qui t'envoie. Il y a un truc à jouer. D'ailleurs, c'est pas impossible que ça ait déjà été fait. Faudra que je vérifie.
Honnêtement, ça m'étonnerait pas.
Donc jusqu'à où va l'immunité diplomatique? Bah ça dépend des pays. Il y a certains pays qui vont beaucoup protéger leurs diplomates, notamment la Russie apparemment. Donc aucune détention, aucune perquisition, enfin les diplomates, pardon, en général, donc ils vont pas les faire chier, etc. Oui, là je me trompe, mais il y a des pays qui vont respecter ça absolument, et quoi qu'ils fassent, ils vont les laisser tranquilles, même pour les crimes graves, et il y a d'autres pays qui vont laisser les diplomates tranquilles pour les petits délits, genre excès de vitesse, bon, on va pas se faire chier avec ça. Par contre, pour certains crimes graves, viols, meurtres, etc., et ben ils vont pas se faire chier avec l'immunité diplomatique, en taule direct, et il va être jugé comme une personne normale.
Encore heureux, quoi.
Bah ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde, ça c'est une minorité en fait, c'est ça qui est assez important. Donc pourquoi tout le monde ne peut pas le faire? Parce qu'il faut pouvoir lever l'immunité diplomatique. Comment on peut la lever? Il faut faire la demande au pays qui a donné l'immunité diplomatique, et là bah, en fait il y a une sorte de désaveu de la personne, et c'est uniquement quand l'immunité diplomatique est levée que la personne peut être gardée à vue, jugée, etc., mise en prison, enfin... Donc voilà, ça veut pas dire qu'un diplomate peut faire n'importe quoi, buter qui veut, etc. Normalement, il doit rester dans la légalité, et s'il le fait pas, le pays qui lui a donné son immunité peut décider de la lever.
Ou peut-être le rapatrier et puis le juger dans son pays d'origine, quoi.
C'est aussi une possibilité, et c'est vrai que c'est assez rare parce que, comme on disait, c'est une façon de désavouer son propre choix, en fait. Donc politiquement, c'est assez difficile d'arbitrer ce genre de choses. Et puis, comme on disait, quand un État hôte demande la levée d'une unité diplomatique, il faut venir bien armé avec des bonnes preuves, parce que c'est très rare que ça se fasse. Donc pour faire en sorte que le pays en face le fasse.
Oui, mais surtout qu'il peut avoir des secrets, j'imagine.
Chaque
agent diplomatique a des choses qui doivent être confidentielles.
Ouais, certainement.
Ah, mais, et puis ils veulent pas qu'il en profite. Pour conclure rapidement, c'est un problème qui est assez complexe. Donc en théorie, un diplomate en mission pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait drifter sur le périph à tout va ou sur la place de l'Étoile et faire des délits, voire des crimes tous les jours. Mais force est de constater que c'est quand même assez rare. Il y a quelques dérives, des mecs qui ont dealé de la drogue, des crimes, des meurtres. Il y en a effectivement.
Il y avait une histoire comme ça en Israël, il y a pas très longtemps. Un diplomate français qui avait, qui avait transféré des armes, fait du trafic d'armes par la mallette diplomatique.
Ouais. Il y a quelques
mois
ça me dit quelque chose,
ouais. j'ai pas vu passer moi, mais
avec la bande de Gaza, je crois qu'ils avaient, en gros il avait un deal avec des mecs de l'autre côté, ils transportaient via une voiture diplomatique des armes à feu qui revendaient de l'autre côté. C'était pas très malin.
Non. Effectivement. Et en fait, ce genre de situation est assez rare parce que le but d'un diplomate, c'est de favoriser les relations amicales entre différents pays. Donc si un pays qui va, envoyer un diplomate quelque part, sait qu'il commet des délits ou des crimes à tout va et le laisse en place sans le rappeler ou sans lever son immunité, ben en fait, c'est comme une sorte de provocation, c'est-à-dire qu'il sait qu'il fait de la merde, mais il le respecte, il respecte pas le pays hôte pour autant. D'un autre côté, bah, les diplomates sont que des humains et manipulent des informations donc très sensibles, et donc c'est des victimes parfaites en fait pour le harcèlement, parce qu'ils pourraient être arrêtés pour de faux excès de vitesse, pour n'importe quoi, pour du faux trafic de drogue très, bah, très facilement, avoir une pression, pour être torturés, pour leur soutirer des informations. Enfin, ce ne sont que des humains, donc une cible extrêmement, extrêmement malléable, malheureusement. Et donc, je veux dire, sans les conventions de Vienne, oui, c'est ça, sans la convention de Vienne, bah, il pourrait tout à fait s'acheminer sur un diplomate étranger, et ce qui fait que le travail serait difficile, serait plus difficile de trouver des personnes travaillant là-dessus, et ils ont besoin d'un minimum de sécurité et de sérénité pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, sachant qu'en plus, ils peuvent travailler sur des missions assez sensibles. Donc, bah, le but, c'est quand même de faire en sorte que les États s'entendent bien. Et sinon, bah, un petit dernier truc, c'est qu'il y a régulièrement des abus autant du côté des États que des diplomates, et une réforme sur ce statut est régulièrement demandée. Donc ça a été le cas, c'est le cas depuis régulièrement depuis quelques années, mais il s'agit d'un problème qui est assez complexe, parce que entre les intérêts des pays, des agents, la sécurité, c'est assez difficile d'arbitrer. Donc
il doit y avoir un statu quo qui fait que personne n'a trop envie de bouger dessus,
c'est ça, et surtout quoi, il n'y a pas de solution qui est parfaite, donc quitte à avoir une solution qui n'est pas parfaite, en l'occurrence, ça reste en l'état et ça risque de rester encore un petit moment.
Oui.
Voilà. Donc nous avons Hicham qui s'est exilé.
Il est parti.
Une dizaine de mètres de la table.
C'est le retour de la buée.
Se rapproche d'une source de fraîcheur.
Voilà. Vu qu'il fait très chaud, je vous avoue qu'on va, pour notre part, on va arrêter. Enfin, on va. De toute façon, l'épisode touche à sa fin.
Oui, déjà, on a fait le tour.
Nous ne fuyons pas l'épisode. Tout ça touche à sa fin. Pas facile à dire.
J'ai pas encore fait mon sujet, moi.
Voilà. Bravo. Donc. Fin d'épisode, qui était un grand plaisir de te recevoir.
Ah, mais écoute, c'était un plaisir de venir.
Encore
merci
une
de
fois,
m'avoir invité, quoi.
Bah écoute, tu es toujours le bienvenu. Ton sujet était top en plus.
Je te conseille plutôt de venir en hiver pour le coup.
Ouais, voilà, on fera ça.
Est-ce qu'on caille pas à mort en hiver?
Ça va parce qu'avec le monde, et puis il y a un radiateur. Là, le ventilo avec les micros, ça marche pas.
Ouais, c'est compliqué, je sais ce que c'est. Je connais ce problème-là. Il fait pas si chaud que ça. Hein. Enfin, je veux dire, il fait chaud, mais
ça se voit que t'as l'habitude. Parce que lui, il est dans la cage d'escalier alors qu'il est.
J'ai connu pire dans notre cave, honnêtement.
Ah.
Ok. C'est des très mauvais souvenirs.
Bah ouais, ça m'a fait très très plaisir en tout cas, parce que bah, comme tu as dit, on t'écoute depuis très très longtemps, donc c'est un bonheur.
Tant mieux, merci. C'est un honneur pour moi aussi d'être invité.
Et puis bah, voilà, sinon pour nos chères auditrices, auditeurs, on vous encourage à écouter L'Apéro du Capitaine. Vous venez de finir votre 9e saison, ce qui est quand même 9e saison, 9e année, parce que nous on ne fait pas forcément des saisons d'une année. C'est quand même pas dégueulasse, il y a du niveau.
Non, ouais. En fait, attention sur quel épisode vous écoutez en premier, vous n'allez pas. Voilà. Faut tomber sur le bon épisode. Demandez conseil avant.
Oui, voilà.
Ouais. Envoyez-moi un message par Twitter et demandez-moi par quel épisode commencer.
Et exactement. Et il y a plein de choses chouettes à y découvrir.
Il y a plein de choses dégueulasses aussi, donc c'est pour ça.
Ouais. Sinon, pour notre part, on vous remercie encore des partages, des likes, des tweets, des 5 étoiles sur iTunes, parce que c'était bien chouette.
Oui, oui.
Les 5 étoiles augmentent, on approche des 100 là, donc ça me ferait bien plaisir d'avoir. Voilà, tiens, mon anniversaire est le 10 août, si on pouvait avoir 100 fois 5 étoiles sur iTunes, ça me ferait bien plaisir.
Très bien. Votez,
voilà.
Votez.
J'ai une requête aussi.
Oui.
Envoyez vos dons pour qu'on puisse acheter une clim silencieuse.
On l'a fait.
Sinon, il n'y aura pas de saison 3, les gars.
On l'a déjà fait, ça marche pas parce qu'en fait les clims elles sont pas silencieuses du tout.
Ouais.
C'est un vrai problème.
Oui, puis de toute façon il faut lever le tuyau sur je sais pas quoi.
Ouais, c'est très compliqué.
Bon. Mais on y réfléchira quand même.
On va trouver une solution.
Elon Musk, si tu nous entends,
trouve quelque chose.
Bon, allez, sur ce, on va descendre prendre l'air et notre bien. Allez, on vous remercie, on vous embrasse pour les messages, les 5 étoiles. On vous promet plein d'invités et eux pour les semaines et les mois à venir. Et des personnes vraiment très très chouettes qui vont nous rejoindre autour de la table. Et puis, nous, on vous embrasse. On vous encourage à prendre soin de vous. On vous balance un épisode bonus très bientôt, voire il sera peut-être
demain. Mais on s'en fout, en temps, vous ne savez pas quel jour il est, mais ce mardi. Quoi.
Voilà, disons bientôt. Et puis prenez soin de vous, partagez, likez, commentez, envoyez-nous des petits messages d'amour et puis des commentaires, des propositions de sujets.
Et vive la cancoyote.
Non, ça suffit.
Voilà.
Et maintenant,
voilà, des gros bisous.
Au revoir. Bye bye.
Je vous dis d'aller se faire enculer.
C'est vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.